Bonjour à tous et merci d'être avec nous. Bonjour Dominique.
Bonjour Rosine et bonjour à tous.
La situation au Moyen-Orient, bien sûr, un accord ou de nouvelles frappes, on va voir ça en détail. Mais d'abord, jusqu'à 600 euros pour tout le monde, sans condition, avez-vous droit à cette fameuse prime carburant évoquée par le Premier ministre?
Les conditions d'accès sont simplifiées, le plafond a doublé, mais ce sont les entreprises qui vont trancher. À la fin, Sofiane va tout nous expliquer dans un instant.
84e jour de guerre, les Pakistanais tentent toujours d'obtenir un accord entre Américains et Iraniens, mais Donald Trump s'impatiente, disent-ils. On verra ce qui bloque avec Chloé Giraud à Washington.
Pendant ce temps, l'Iran se réarme et ça va plus vite que prévu. Selon les services de renseignement américains cités par CNN, la fabrication de drones a déjà repris.
Dans l'actualité également, Flavie Flamand qui sort du silence une semaine après sa plainte contre Patrick Bruel. Tout le monde savait, dit-elle, et tout le monde se taisait. Elle étrille, vous l'entendrez, la défense du chanteur dénonce une diffamation épouvantable.
Et puis le livret A au plus bas, jamais les Français n'avaient retiré autant d'argent de leur compte épargne, conséquence de la guerre et de l'inflation qui guette.
Cette guerre qui va durer et qui nous coûte cher, c'est déjà le cas avec un sans-plomb qui continue à monter depuis le début du conflit. On a aussi un diesel, 45 centimes, vous le voyez, plus cher qu'avant le début de cette guerre. Vous êtes nombreux à vous obliger, du coup, à moins rouler. Ce mois-ci, la consommation de carburant a baissé de 14% par rapport à l'an dernier.
Alors, pour aider les automobilistes sans que ça ne lui coûte rien, eh bien, le gouvernement mise sur la prime carburant, jusqu'à 600 euros par an, payée par votre entreprise. Mais alors, qui y a droit et à quelles conditions? On voit ça avec Eléa Morel, Isor de la Gorce et Aristide Sadna.
Une prime destinée aux salariés pour les aider à payer leur carburant. Dans cette station-service de l'Ain, l'idée séduit.
C'est clair, pourquoi pas, hein. On prend.
Mais alors, en quoi consiste cette prime? Versée par l'employeur, elle était jusqu'ici exonérée de cotisations et d'impôts dans la limite de 300 euros. Hier, le gouvernement annonce doubler ce montant.
Concrètement, donc, le plafond va passer de 300 euros à 600 euros. Les critères d'attribution seront supprimés. Par exemple, il n'est plus question de contraintes sur le cumul avec les autres primes.
Qui pourra en bénéficier? Le gouvernement indique que tous les salariés se rendant au travail en voiture sont concernés. Mais dans les faits, votre employeur n'a aucune obligation de vous la verser.
C'est au bon vouloir de l'employeur. Bah oui, donc si l'entreprise elle va bien, et ben en fait elle va donner des aides. Mais dès lors que ça va pas, et c'est peut-être là où il y aurait besoin d'aider un peu plus, et ben il y aura rien.
Combien de personnes sont concernées? Jusqu'ici, environ 1 million de salariés touchaient cette prime. Elle s'est levée entre 20 et 50 euros par mois. Désormais, plusieurs millions de Français pourraient être concernés.
Il y a quand même 3 Français sur 4 qui prennent leur véhicule au quotidien pour aller travailler et qui sont potentiellement concernés à condition que leur entreprise veuille bien jouer le jeu.
Les entreprises volontaires peuvent décider de verser la prime en une seule fois ou de l'étaler sur les prochaines fiches de paie.
Bon, Sofiane, ce qu'on comprend, c'est qu'il faut aller négocier tout de suite avec son patron, en fait.
Oui, ça va être quand même compliqué parce que le patron en face, il a quelques raisons de dire non, finalement. Parce que ce sont les entreprises l'une des premières victimes de cette guerre au Moyen-Orient. On voit l'attractivité qui en pâtit. On voit notamment les investissements, le chômage, la croissance qui est nulle. Donc, évidemment, eh bien, les rentrées dans les entreprises sont moins importantes. Et donc, c'est plus compliqué pour les entreprises de rendre cet argent sous forme de primes. Et puis, comme c'est du volontariat, qui va les donner? Effectivement, il y avait 1,5 million de personnes qui étaient concernées, qui pouvaient toucher cette prime. On ne sait pas exactement, finalement, combien la toucher. On sait juste qu'on n'était pas au plafond.
Nous, on ne connaissait pas, hein, clairement. Voilà,
on ne connaissait même pas l'existence.
Personne ne connaissait cette prime.
C'est ça. Alors, fatalement, avec cet aspect médiatique, grâce au gouvernement, eh bien, d'autres entreprises vont proposer cette prime. Et puis, le fait qu'il n'y ait plus de critères. Néanmoins, ça risque pas d'être un raz-de-marée pour cette prime et encore moins ce plafond de 600 euros.
Pour Marine Le Pen, en tout cas, ces mesures annoncées hier par Sébastien Lecornu ne sont pas à la hauteur. Elle était ce matin sur BFM TV. Le Rassemblement National prône depuis le début une baisse des taxes sur le carburant. Écoutez.
Si, comme nous le souhaitions, il avait baissé la fiscalité sur les carburants, les Français auraient continué à consommer des carburants dont ils ont besoin pour vivre. Il n'y aurait pas, en tout cas, cette baisse de la consommation, avec toutes les conséquences, encore une fois, avec leur effet récessif sur l'économie, c'est sûr.
Taxe réduite égale pas de baisse de la consommation. C'est vrai, ça?
Sur le carburant, oui, puisqu'on voit 14% de baisse pour le mois de mai, 10% au mois d'avril. Tous ces effets sont cumulatifs à des moments où on avait des vacances et des ponts pour partir. En revanche, sur la consommation des ménages, en règle générale, c'est moyennement vrai. On a vu une baisse pour l'instant assez limitée au premier trimestre de 0,1% de la consommation. Le problème, c'est plutôt le commerce extérieur et l'investissement. Donc finalement, on aurait récupéré quoi, 1 à 2 milliards d'euros avec un peu plus de consommation. De l'autre côté, la mesure que propose Marine Le Pen de baisse de la TVA, elle coûte 1 milliard par mois avec les carburants. Ça coûterait donc beaucoup plus cher.
Allez, venons-en à la guerre en Iran. 84e jour de conflit, accord en vue ou reprise des frappes. Pour l'instant, les négociations entre l'Iran et les États-Unis patinent. Chloé Giraud, on vous retrouve en direct de Washington avec Antoine Corvée. Qu'est-ce qui coince, Chloé, ce midi ?
J'ai envie de vous dire toujours les mêmes points, à savoir premièrement le stock d'uranium enrichi de l'Iran que les Américains voudraient récupérer. Or, pour l'instant, Téhéran ne semble pas prêt à ce que ce stock quitte son territoire. Et puis, deuxièmement, bien sûr, le sort du détroit d'Hormuz avec l'Iran qui continue toujours de réfléchir à des solutions, des manières de garder un contrôle à minima financier sur ce détroit, là où, bien évidemment, pour les Américains, il faut que la circulation reste libre. Les discussions traînent, donc, même si des avancées sont signalés de part et d'autre. Et le calendrier s'accélère pour Donald Trump, y compris sur le plan personnel. Écoutez le président américain qui était censé ce week-end assister au mariage de son fils.
Mon fils aimerait que j'y aille, ça sera une petite fête privée, je vais essayer d'y être. Je lui ai dit, tu sais, c'est pas un très bon timing pour moi. Je gère quelque chose qui s'appelle Iran et d'autres choses aussi.
Voilà les échéances qui vont se multiplier de manière générale pour le président américain ces prochaines semaines, ces prochains mois, son 80e anniversaire. Ce sera le 14 juin, la fête nationale américaine début juillet, la Coupe du monde de foot aussi. Et puis plus tard, les élections de mi-mandat qui seront extrêmement importantes pour lui.
Chloé Giraud sur des images d'Antoine Corvère. Sébastien Regnault, on attend toujours l'homme fort du Pakistan, puisque c'est le Pakistan, on le sait, qui est à la manœuvre pour ces négociations, le maréchal Mounir à Téhéran. Ça traîne. Quand il arrivera, ce sera un vrai signal que Téhéran a accepté des concessions ?
Alors, est-ce que ce sera un signal que Téhéran accepte des concessions ? Du moins, ce sera un signal que le Pakistan met la pression sur l'Iran pour obtenir un accord. Car vraiment, les Pakistanais font tout pour essayer d'avoir un accord. Ils ont aussi une pression de la Chine et en fait une pression internationale. On vient de parler de la hausse des carburants pour tout le monde. Je crois que la pression économique sur ces négociations sont extrêmement fortes. Il y a deux points qui pose encore problème, mais c'est un problème de curseur. C'est la question de l'enrichissement d'uranium, 1, 2, 3%. L'Iran aurait accepté un moratoire sur cet enrichissement. Maintenant, tout est une question de temps. Les Iraniens veulent 5 à 10 ans, les Américains en veulent 20. Après, il suffira de mettre le curseur quelque part. Ensuite, c'est la sortie de ce stock de nucléaire, de cette poussière de nucléaire enrichie à
60%. Ce qui reste de l'uranium, oui.
Voilà, les Iraniens auraient accepté le principe d'une sortie de ce stock. Maintenant, c'est vers un pays tiers et pour les Iraniens, je crains que ce soit très difficile pour eux que ce stock parte aux États-Unis. Mais une des possibilités, c'est par exemple qu'une partie du stock parte aux États-Unis et une autre partie vers un autre pays. Donc voilà, c'est toute une question de curseur. La diplomatie, ça prend du temps, mais je crois que tout le monde a intérêt à trouver une solution avant l'été.
L'Iran qui, en tout cas, profite de ces six semaines de cessez-le-feu pour refaire son stock de munitions. Selon CNN, qui cite les services de renseignement américains, les Iraniens ont déjà relancé la production de drones et Roselyne beaucoup plus vite que prévu.
Oui, ça mérite des explications avec le général Pellistrandi parce que ces drones sont très efficaces, peu chers à fabriquer et visiblement, c'est pas si compliqué que ça, général. Vous n'allez pas nous faire un mode d'emploi, mais c'est très efficace en fait.
Oui, c'est très efficace et ça ne demande pas des installations industrielles conséquentes. Regardez, ça fait à peu près la taille d'une, on va dire, même pas d'une petite voiture. C'est des matériaux composite, vous savez, donc c'est léger, ça demande pas des grues, et donc ça peut se faire dans des petits ateliers.
En fait, là, on voit ces images de propagande, mais en vrai, c'est pas des usines, ça pourrait se faire dans un garage.
Pratiquement, voilà, un grand garage où vous avez la remorque, hein, où vous pouvez fabriquer ça. Ensuite, vous allez, des matériaux, c'est du plastique, c'est des matériaux qui sont faciles à assembler, ça ne nécessite pas des installations industrielles conséquentes. Vous pouvez utiliser des imprimantes 3D, vous savez les imprimantes 3D, et c'est facile à se procurer. Bah, par exemple, vous allez les chercher en Chine. Regardez, ça fait 200 kilos, c'est pas lourd. Et quand vous regardez bien, c'est un gros moteur. Ce gros moteur, il est... Alors, il peut paraître important, mais c'est à peu près de... Voilà, ça fait à peu près cette taille-là.
Et quand vous parlez d'imprimante 3D, c'est pour faire quoi?
Alors,
c'est
pour faire des éléments, pour faire la carcasse. L'assemblage, donc, ce sont des tissus en carbone que vous mettez dans un moule. Et donc, c'est relativement facile à faire. Et vous pouvez, en quelque sorte, si vous avez bien préparé à l'avance, disséminer vos ateliers en quelque sorte. Il n'y a pas besoin d'avoir l'atelier qui fait 100 mètres de long. Ça peut être, donc, comme vous l'avez dit... un peu plus qu'un garage, mais bien camouflé. Et ça, eh bien, visiblement, les Iraniens ont repris la production parce que ça coûte pas cher. Un drone comme celui-ci, c'est entre 5 000 et 20 000 dollars. Donc, vous voyez bien que c'est production de masse, déconcentré. Puis après, vous le transportez dans des camionnettes. Et ça, c'est mélangé au milieu de la circulation.
Et puis, Donald Trump a beau dire, les Iraniens ne sont pas seuls. Ils ont des alliés, notamment chinois, des ventes d'armes secrètes, de composites, voire les renseignements de satellites chinois. On y reviendra en détail dans le dossier du 13h.
L'Iran qui se réarme donc à grande vitesse, on le comprend avec vous, Général, alors que le stock de munitions américains, cette fois, lui apparaît dangereusement bas. Le budget du Pentagone prévoit bien un réarmement que le secrétaire d'État Pete Hegseth met en scène, d'ailleurs, regardez, sur les réseaux sociaux. Patrick Sauce, on la voit, cette vidéo. On peut déjà s'interroger sur la forme.
Pardon, moi je m'interroge plus sur la forme de Pete Hegseth. ça n'est pas la première fois qu'il...
Non, mais regardez, ça c'est le fameux dôme d'or.
Alors, le dôme d'or, mais surtout, lorsqu'on entend parfois la voix de Pete Hegseth, qui lui
ça,
peut être très excité, il parle d'une façon très didactique, comme si on était dans une école maternelle ou primaire américaine, où il vous explique que le budget de 1500 milliards de dollars va permettre de se protéger. Oui, mais si ce qu'il ne dit pas, c'est que ce budget, il n'est pas voté. Pour l'instant, ces 1500 milliards n'existent pas. On ne sait pas déjà si le budget de cette année va suffire. Pourquoi ? Parce qu'il a été voté l'année dernière, avec évidemment l'ignorance des conséquences des guerres rapides, certes, au Venezuela, mais ça fait 6 mois quasiment d'opération, ça a coûté très cher le Venezuela. On n'a pas pris en compte dans le budget de cette année la guerre en Iran, on n'a pas pris en compte l'excursion à venir au Venezuela. Résultat, d'ici la fin du mois de juin, s'il n'y a pas une rallonge votée par le Congrès américain, il va falloir couper court dans des entraînements et dans des présences de troupes américaines sur le sol américain qui font figure de murs humains face au Mexique. Et on a eu, et ça c'est une information qui a été diffusée hier dans les médias américains, un holà donné par la majorité, enfin en tout cas par, oui, le speaker Mike Johnson, qui est proche de Donald Trump. Il y avait en fait un texte qui devait être voté au Congrès hier soir par les démocrates et aussi quelques républicains qui devaient arrêter les opérations de guerre américaines. Eh bien, ce texte a été enlevé de l'ordre du jour par un Mike Johnson. Donc, c'était un coup de boutoir des démocrates et de quelques républicains qui n'a pas fonctionné. Mais ça va revenir. Donc, cette vision très dessin animé et fantastique avec ce gros 1,5
trillion. 1,5 milliard de milliards, voilà. Oui. On se perd dans les zéros. Voilà.
Aujourd'hui, ça n'existe pas. Ça n'a pas été voté. C'est pas du tout gagné pour Pete Hegseth.
Et cette vidéo générale, c'est aussi une réponse aux critiques qu'on a vues dans les médias américains ces derniers temps. Les inquiétudes, elles viennent de l'état-major.
Oui,
sur les stocks de munitions notamment.
Sur les stocks de munitions, mais aussi ils ont de vrais problèmes de fabrication. Par exemple, dans le domaine maritime.
Eux, ils font pas dans des garages, voilà.
Ils font pas dans des garages et ils ont un problème de production, c'est-à-dire que ils ont raté un certain nombre les dernières générations de bateaux. Et donc il y a toute une, il faut remettre tout ça en marche. C'est extrêmement compliqué. Pour le moment, comme le dit Patrick, il faudra voir la réalité des choses. Et c'est pas vraiment des dessins animés qui peuvent rassurer.
ça fonctionne pas comme ça.
C'est aussi une guerre d'image et de com. On a vu des deux côtés.
Les Américains qui reprochent, en tout cas, à leurs alliés de l'OTAN, dont nous faisons partie, de ne pas les aider suffisamment dans cette guerre. Marco Rubio, le secrétaire d'État américain, l'équivalent de notre ministre des Affaires étrangères, participe en ce moment à une réunion en Suède. Les Européens vont tenter de l'apaiser sur le fond, sur fond d'inquiétude sur nos moyens de défense. Alexis Avril.
C'est le visage fermé que le secrétaire d'État américain s'avance en arrivant à la réunion de l'OTAN. Dès les premières minutes, il donne le ton.
Le président a exprimé sa déception face à certains de nos alliés de l'OTAN. C'est un sujet que les dirigeants devront débattre au plus haut niveau.
En effet, Donald Trump ne décolère pas. À la veille de son arrivée en Suède, Marco Rubio fustigeait une alliance qui refuse de faire quoi que ce soit.
Il ne leur a pas demandé d'envoyer des troupes ou des avions de chasse, mais ils n'ont rien voulu faire. Donc le président s'est dit « Attendez une minute, ces pays sont d'accord avec nous sur tous les points, donc nous avons voulu faire quelque chose et tous les autres se sont planqués ».
L'enjeu de cette réunion mesurait l'engagement réciproque entre les États-Unis et l'OTAN, alors que chacun pourrait prendre ses distances.
La voie que nous avons empruntée, celle d'une Europe et d'une OTAN plus forte, nous permettra au fil du temps et étape par étape de dépendre moins d'un seul allié, comme cela a été le cas pendant si longtemps, à savoir les États-Unis.
Une question clé, dans un contexte incertain sur la suite du conflit au Moyen-Orient.
On sent que ça commence à bruisser quand même. On parle des travaux à l'OTAN, on parle des travaux au sein de l'Union européenne pour se dire... On peut pas rester comme ça. On peut pas être dépendant à 200% de Donald Trump d'un côté et attendre que ça tombe, que le résultat des courses tombe. Est-ce qu'il intervient, est-ce qu'il intervient pas? Et que fait-il pour le détroit d'Ormuz?
La plupart des pays de l'OTAN devraient participer à la coalition à venir pour sécuriser le détroit.
En même temps, général Sébastien, je vous voyais réagir. Vous disiez, c'est foutage de gueule.
Dans la mesure où le comportement de Donald Trump à l'égard de ses alliés, en particulier européens, n'est pas très correct. Il n'a prévenu aucun de ses grands alliés, je pense la France, la Grande-Bretagne par exemple. Et donc, ça explique le fait que les alliés européens de l'OTAN sont très clairs, ce n'est pas notre guerre, mais cela n'exclut pas le fait que nous avons un groupe aéronaval qui est envoyé sur zone avec participation britannique, italienne, voilà. Mais il faut bien reconnaître que les propos de Trump sont au minimum désobligeants à l'égard de ses alliés.
D'ailleurs, on reviendra sur cette escorte qui accompagne le groupe Timbal dans le journal de midi et demi, avec notamment ces nouveaux avions qui permettent de tout voir presque partout.
Oui, Donald Trump a mis tout le monde devant le fait accompli. Il a prévenu personne. Et on voit même dans la question des stocks de munitions américains, c'est-à-dire qu'on a le sentiment que même à l'intérieur de l'armée américaine, il y avait un manque de préparation par rapport à une guerre de cette envergure, de cette ampleur dans un pays du Moyen-Orient. Donc, c'est vrai que les alliés, si vous voulez, qui ont été pris au dépourvu par cette guerre, trouvent difficilement un rôle dans une guerre qu'ils n'ont ni approuvée, par laquelle ils n'ont pas été concertés, ni invités à faire quoi que ce soit. Donc, et là, on voit bien vraiment la diplomatie américaine qui essaye de recoller les morceaux, finalement, d'une décision qui a été prise à l'emporte-pièce et qui a mis tout le monde devant le fait accompli.
Dans le reste de l'actualité, il y a également l'affaire Patrick Bruel avec cette prise de parole très attendue ce matin. Tout le monde savait, mais tout le monde se taisait. Voilà ce que déclare Flavie Flamand, qui parle une semaine après la médiatisation de sa plainte pour viol.
Alors elle se dit soulagée d'avoir enfin parlé, un des faits qui remonte à 35 ans, malgré toutes les attaques qu'elle subit depuis. Et d'ailleurs, elle répond au chanteur et à ses avocats. Elle compare leur stratégie de défense à de la diffamation. Romain Langlais.
Au micro de RTL ce matin, Flavie Flamand est catégorique.
Je n'ai jamais eu de relation sexuelle consentie avec Patrick Bruel.
Des propos en réponse à la défense du chanteur, qui assure lui avoir eu des relations brèves et épisodiques sur plusieurs années avec l'animatrice.
Deux personnes qui s'apprécient peuvent de temps en temps avoir une relation sexuelle lorsqu'ils se rencontrent.
Âgée de 16 ans au moment des faits présumés, Flavie Flamand raconte avoir été violée par Patrick Bruel en 1991, après avoir consommé un thé dans l'appartement parisien de l'artiste.
J'ai sombré dans un trou noir, ce que j'appelle le blackout. Et c'est fou d'ailleurs, je me suis réveillée, mon esprit s'est réveillé, mon corps ne répondait pas. Et quand j'ai ouvert les yeux, j'étais allongée sur le dos, quand j'ai ouvert les yeux, je l'ai vu, il était en train de me remettre mon pantalon.
Une libération de la parole importante, explique l'animatrice, une semaine après le dépôt de sa plainte contre le chanteur.
C'est un moment que j'attendais depuis longtemps. Je me sens soulagée d'avoir enfin parlé parce que ça faisait 2 mois et demi que je vivais avec la torture du mal que l'on m'avait fait en moi. Et il fallait à un moment donné que je la partage. Avec le monde.
À ce jour, au moins 12 plaintes pour viol et agression sexuelle ont été déposées contre Patrick Bruel. Flavie Flamand indique également se réserver le droit de porter plainte pour diffamation contre le chanteur de 67 ans.
On vous en parlait en titre, les Français se détournent du livret A. Alors évidemment, il ne rapporte plus grand-chose, mais il n'y a pas que ça, nous dira Sofiane tout de suite.
Sofiane, quatrième mois consécutif de baisse pour le livret A.
Oui, au mois d'avril, les retraits ont été supérieurs aux dépôts de plus de 1,3 milliard d'euros. C'est le pire mois d'avril depuis que les statistiques existent, en 2009. Et au total, quand on regarde depuis le début de l'année, quand on fait l'addition, eh bien, ce sont près de 5 milliards d'euros qui sont sortis à la fois des livrets A et des LDDS, hein, les fameux livrets de développement durable et solidaire. Et ça, c'est le montant le plus important depuis 18 ans, c'est-à-dire en fait, eh bien depuis la crise financière de 2008, ça montre bien que tous les signaux sont au rouge, y compris celui de la consommation des ménages.
Ouais, mais rappelez-moi, il rapporte combien le livret A ?
1,5%, ceci explique peut-être cela, c'est certain. Il n'a fait que baisser et en un an, il est passé de 3% à 1,5%. Donc fatalement, ça n'incite pas les Français à collecter. Ceci dit, ce n'est pas la seule raison. D'abord, vous le voyez, l'inflation galopante est passée de 1,7% en mars à 2,2% en avril. Fatalement, quand elle accélère, eh bien, on est un peu obligé, surtout pour les plus modestes, de puiser dans le livret A. Et en fait, la meilleure manière de le regarder, c'est de regarder l'encours du livret d'épargne populaire, le LEP, qui lui est à un taux beaucoup plus intéressant, 2,5%. Eh bien, même à ce taux-là, la décollecte, c'est-à-dire la différence entre les dépôts et les retraits, est importante, plus de 300 millions d'euros d'écart, ce qui veut dire que les ménages les plus modestes sont bien obligés de puiser dans leur livret pour pouvoir financer leurs achats du quotidien. On ne parle pas de restaurants ou d'argent qui va forcément dans l'économie réelle, parce que souvent on dit qu'on épargne trop en France, mais là on parle bien d'achats de première nécessité, tout simplement, pour se nourrir, pour se loger et évidemment pour l'énergie, parce qu'on a vu les chiffres démentiels des hausses des carburants ces dernières semaines.
Le taux de rémunération du livret A est indexé sur l'inflation, donc ce qui voudrait dire qu'il pourrait redevenir attractif bientôt. Monter.
Voilà, parce que pour l'instant, on a quand même une sacrée différence, 1,5% pour le livret A, mais 2,2% pour l'inflation. Mais le problème, c'est qu'il n'y a que deux fois par an en février et en août, où il y a une revalorisation possible de ce taux. Elle va évidemment intervenir, mais pour l'instant, elle sera modeste. On aura la réponse mi-juillet, mais ça devrait être autour de 1,7 à 1,8% pour ce livret A. Ça ne suffira pas à compenser l'inflation galopante qu'on voit actuellement en France.
On rappelle le taux de 22 950, c'est ça ?
Le plafond, oui, c'est ça. 22 957 de mémoire.
Il est midi et demi, de retour sur le plateau de Midi BFM avec cette question. Va-t-on manquer d'essence cet été? Les avions seront-ils à court de kérosène? Les marchés pétroliers s'apprêtent à rentrer en zone rouge.
C'est en tout cas la mise en garde du patron de l'Agence internationale de l'énergie pour l'été prochain, conséquence de la guerre bien sûr, mais aussi d'une hausse de la demande à l'approche des vacances.
Et si les Iraniens dégainaient les premiers alors que Donald Trump menace toujours de reprendre les frappes en Israël, circule le scénario d'une attaque surprise de Téhéran. Nous irons voir Marie Roux sur place.
Pour l'heure, il négocie toujours, mais ça piétine. Qu'est-ce qui bloque précisément? Évidemment, Hormuz, l'uranium enrichi aussi. Donald Trump maintient qu'il va le récupérer et le faire venir aux États-Unis.
La nouvelle arme française du Golfe, l'Atlantique 2, redoutable avion de combat et de surveillance à la fois. On fera les présentations avec le général Pellistrandi.
Et puis elle se dit prête à faire face à celui qu'elle accuse de viol. Flavie Flamand a pris la parole ce matin pour répondre au chanteur, dénoncer aussi sa défense qu'elle qualifie de diffamation.
C'est une alerte rouge et c'est rarement bon signe qui a été émise donc hier par le patron de l'AIE, l'Agence internationale de l'énergie, concernant les réserves mondiales de pétrole.
C'est la mise en garde effectivement de l'agence. Alors pourquoi, alors que se profile l'été, les vacances, c'est vrai qu'il y aura une forte demande, c'est vrai qu'il y aura toujours la guerre. Faut-il s'inquiéter pour cet été? Est-ce que vraiment une pénurie est à craindre? On voit ça avec Morgane Benkab.
Un risque de pénurie de carburant en pleine saison touristique, c'est ce qu'anticipe l'Agence internationale de l'énergie.
Nos stocks s'épuisent. Fin juin, début juillet, c'est la saison touristique. La situation risque d'être difficile et nous pourrions entrer dans une zone rouge en juillet ou en août.
Mais alors, faut-il craindre des difficultés pour circuler cet été? Pour l'instant, aucune pénurie n'est annoncée en France, mais pour beaucoup d'automobilistes, la hausse continue des prix commence déjà à peser sur le budget vacances.
Nous, on partira pas et on fera autrement. On partira plus tard
On va voir.
Là, ça va être compliqué de vraiment planifier un truc avec la voiture.
Du côté du gouvernement, le discours se veut rassurant. Hier, la ministre affichait cette carte. 95% des stations ne rencontrent pas de difficultés d'approvisionnement.
Il y a des tensions, elles sont réelles, mais elles sont maîtrisées.
Mais ces tensions peuvent-elles réellement provoquer une pénurie en France et plus largement en Europe ?
Le scénario le plus probable aujourd'hui, ce n'est pas qu'on ait plus d'essence ou de diesel du tout, mais plutôt qu'on ait une hausse massive des prix ou une hausse qui continue, donc les prix à la pompe qui sont très élevés, qu'on ait des tensions toujours logistiques.
Le kérosène est aussi touché par la hausse des prix. Certaines compagnies comme Lufthansa réduisent déjà certaines lignes. Pas de pénurie pour l'instant, mais un été qui pourrait coûter beaucoup plus cher aux vacanciers.
Bon, Sofiane, dit comme ça, alerte rouge, forcément, c'est pas très rassurant. Est-ce qu'on cherche à se faire peur ou il y a vraiment un risque d'épuisement des stocks en France ?
La vérité, elle est entre les deux. L'alerte, elle est mondiale. Et sauf qu'on n'est pas tous dans la même situation, nous les Européens, avec les pays asiatiques, par exemple, où certains pays sont d'ores et déjà à sec. Ou certains pays d'Afrique, où là, le risque est très important à l'heure actuelle. Nous, c'est pas le cas. D'abord, parce qu'on continue d'avoir des approvisionnements qui sont diversifiés, qui ne passent pas que par le détroit d'Ormuz. Et puis, nous avons les fameux stocks stratégiques, l'équivalent en France de 100 jours. Donc, effectivement, on pourrait pallier ce manque. Ceci dit, l'inquiétude, elle est plus forte en ce qui concerne le kérosène, parce que là, les importations issues du Moyen-Orient sont plus larges. Donc là, effectivement, si la demande est trop importante, il peut se passer des tensions sur l'approvisionnement. Ceci dit, pour nous, Européens, le risque, il est plutôt sur un choc de prix et pas forcément de pénurie, parce que tout simplement, il manque toujours l'équivalent de 13 millions de barils par jour qui ne sont pas là, donc c'est-à-dire à peu près 12 à 13% de la production mondiale. Et puis, plus vous avez une offre qui se détruit et une demande qui va augmenter avec l'été et les déplacements, bah plus vous risquez d'avoir une tension sur les prix. On peut parler de chaque mois qui va se poursuivre avec la fermeture du détroit d'Ormuz, l'équivalent de 20 à 30 dollars le baril supplémentaire, ce qui veut dire une vingtaine de centimes à la pompe. Donc effectivement, ça peut monter très très haut cet été.
Sébastien ?
Oui, ce que j'avais expliqué sur votre plateau, je crois déjà il y a un mois ou deux, il faut bien distinguer ce qui relève du produit, des cours, ce qui est rare et cher. Donc s'il y a des pénuries dans les pays d'Asie ou d'Afrique, et bien évidemment, les cours vont augmenter. Et nous, on est plutôt dépendant des problèmes de cours. On a des approvisionnements qui viennent de partout de la planète. Le problème, c'est que le produit qu'on va acheter va être de plus en plus cher.
Et le problème, c'est que sur Hormuz, ni les Américains ni les Iraniens n'arrivent à se mettre d'accord. C'est là-dessus, visiblement, que les négociations bloquent. Et puis, il y a aussi la question de l'uranium enrichi, une ligne rouge pour Trump.
Conserver leur uranium hautement enrichi ?
Non, nous allons le récupérer. Nous n'en avons pas besoin, nous n'en voulons pas, nous le détruirons probablement une fois en notre possession, mais nous ne les laisserons pas le garder.
Donald Trump qui menace toujours, lui, de frapper l'Iran si les réponses iraniennes ne lui conviennent pas. Et si, alors ça c'est un scénario que personne n'avait forcément envisagé, anticipé, si les Iraniens frappaient les premiers. C'est une hypothèse qui circule en tout cas en Israël. Marie-Ron, on vous retrouve à Tel Aviv.
Oui, exactement. C'est une information qui a été révélée ce matin par le Jérusalem Post, qui cite donc des hauts responsables du renseignement militaire israélien qui ont évoqué, eh bien, la possibilité d'une attaque surprise iranienne contre les pays du Golfe, mais également contre Israël. Cette hypothèse, elle inclurait notamment des tirs de missiles, mais également l'usage de drones. Et, eh bien, cette attaque surprise iranienne a été évoquée lors d'une évaluation sécuritaire où il y avait de nombreux responsables militaires israéliens, mais également le ministre de la Défense, Israël Katz. Et cet avertissement, il intervient dans un contexte déjà particulièrement tendu ici, alors que les négociations entre Washington et Téhéran s'éternisent, mais surtout sur un fond de désaccord profond entre Donald Trump et Benjamin Netanyahou. Donald Trump qui plaide plutôt pour un compromis diplomatique en vue d'un cessez-le-feu, alors que Benjamin Netanyahou, lui, reste favorable à une reprise des frappes contre l'Iran. Ce scénario, il a donc été évoqué par des sources, des responsables responsable du renseignement israélien, mais ça traduit surtout l'inquiétude ici en Israël et le fait que le pays est en état d'alerte maximale. D'ailleurs, Tsahal se dit toujours prête à intervenir dès que la reprise des... s'il y a en tout cas une reprise des frappes.
Marie Roux sur des images d'Olivier Saint-Paul. Sébastien, cette attaque surprise venue de l'Iran, officiellement tout le monde discute encore là. Hein.
Alors là, tout le monde est vraiment sur les starting blocks, tout le monde est en alerte et c'est peut-être aussi un message des services de renseignement israéliens pour mettre une pression maximum sur l'armée israélienne.
Et sur les États-Unis aussi.
Et sur les États-Unis pour se tenir prêts. Mais traditionnellement, les Iraniens n'ont pas la tradition d'attaquer les premiers, ça depuis, j'allais dire, des siècles, c'est comme ça. Vous savez, en Iran, on explique souvent qu'il est toujours honorable de se défendre, il n'est jamais honorant d'attaquer les premiers. Donc les Iraniens sont souvent dans cette ligne de défense, et alors peut-être que les faits vont me prouver le contraire, mais je n'ai pas à l'idée que les Iraniens vont relancer des hostilités de leur côté, car ils auraient aussi de leur côté beaucoup à perdre.
De leur côté, la France. La France et le Royaume-Uni continuent de se rapprocher. Vous savez que nos deux pays ont lancé une initiative commune qui vise à assurer la sécurité dans le détroit une fois que celui-ci sera libéré.
Alors, il y a le Charles de Gaulle. Il y a aussi cette patrouille maritime Atlantique 2 qui a escorté une frégate anglaise dans le détroit de Bab el-Mandeb. C'est à la sortie de la mer Rouge. Une zone compliquée et particulièrement dangereuse. On en parle régulièrement.
Et parmi donc l'Atlantique 2, parmi ces appareils qui escortent ici, voilà. Donc on voit d'abord le détroit de Bab el-Mandeb. Donc ça c'est le détroit. C'est dangereux parce qu'il y a les outils, évidemment, au Yémen.
Bien sûr. Alors
l'Atlantique 2, donc voilà l'un des appareils qui escorte ce HMS Dragon. On le connaît mal cet appareil chez nous, Général Pellestrandi. Présentez-nous cette nouvelle arme.
Alors c'est un appareil indispensable et qui, en fait, vole depuis des années. Il est rentré en service au début des années 1990. C'est un avion de patrouille maritime. Donc, c'est-à-dire qu'il va au-dessus des océans. Et donc, c'est un appareil qui est très gros. Regardez, 31 mètres de long, 37 mètres d'envergure. Donc, c'est un très gros appareil. L'équipage, c'est une quinzaine de personnels à bord entre les pilotes. Et à l'intérieur, vous avez des consoles avec des instruments et qui permettent en quelque sorte d'avoir une vision complète de ce qui se passe. Et puis, il peut être armé, il peut avoir des missiles anti-navires, des bombes guidées, des torpilles. Et ce qui est très important, c'est tout ce qu'il est capable de faire. Il peut traiter en vol 1 millier de cibles réparties sur les océans. Donc c'est un appareil indispensable. Certes, il est ancien, point de vue conception, quand on le voit, mais il a été entièrement modernisé.
Entièrement repensé.
Exactement. C'est son sixième standard, c'est-à-dire, il est vraiment au nec plus ultra, avec de la technologie numérique, radar de veille très performant, même si la cellule, effectivement, est un petit peu ancienne, et c'est un atout formidable dans le Golfe, à partir de Djibouti, pour surveiller la mer Rouge. Donc
oui, parce que redoutable avion de combat, mais de surveillance également.
Surtout de surveillance.
De surveillance.
Savez-vous qu'il peut voler 14 heures? Donc vous imaginez tout ce qu'il peut emmagasiner comme information, et ces informations, elles vont être relayées par les moyens de télécommunication vers le groupe aéronaval ou les bateaux qu'il est censé protéger. Donc c'est un appareil majeur. Nous en avons 18, et donc ils sont aujourd'hui présents pour accompagner le groupe aéronaval français et notamment le destroyer britannique dans la région, donc entre Mer Rouge et Golfe d'Aden.
Dans le cadre de cette alliance, effectivement, entre Britanniques et Français.
Et en attendant que le détroit soit libéré, il y a toujours ces conséquences économiques très lourdes de la guerre. Et cette annonce du Premier ministre hier sur une prime carburant jusqu'à 600 euros. Qui a droit à comment faire pour la toucher? On posera la question dans un instant à l'invité du Midi BFM, Audrey Guidès, qui est DRH, qui va nous donner toutes les clés. Mais d'abord, un coup d'œil au cours. D'abord, le pétrole. On en est où, Sofiane?
Il a reflué depuis avant-hier et l'annonce de Donald Trump de possibles négociations. On est autour de 105 dollars le baril. Ça s'est un petit peu calmé, mais vous voyez, voilà, quasiment 3 semaines qu'on n'arrive pas à redescendre sous les 100 dollars le baril.
Sébastien Lecornu a donc présenté hier une nouvelle série de mesures pour aider les Français à faire le plein, très attendu évidemment par de nombreux salariés, mais aussi à l'approche de l'été. On va peut-être les voir, ces mesures. Voilà ce qu'il faut retenir. Donc pêche, agriculture, routier, BTP, les aides sont prolongées, doublement de l'aide aux grands rouleurs, et puis la prime carburant, on y reviendra dans un instant, passe de 300 à 600 euros. Qu'en pense-t-on, Isor de la Gorre? Vous êtes dans les Yvelines et vous avez croisé des salariés qui ont vu cette facture de carburant gonfler ces dernières semaines et qui attendaient beaucoup des annonces.
Exactement, on va en parler directement avec Sofiane, qui est un salarié d'un établissement de restauration rapide et qui est, lui, un grand rouleur puisqu'il roule plus de 70 km par jour pour se rendre à son travail. Et vous l'avez remarqué, Sofiane, depuis la guerre au Moyen-Orient, votre budget carburant a explosé.
Ah oui, il a doublé même carrément. Bah, à la base, j'étais moi à peu près à 280 par mois. Et là, on dépasse les 400 € facilement.
Et alors, tout à l'heure, on a fait ensemble une simulation sur le site impots.gouv et vous avez découvert que vous étiez éligible à une aide, 100 € d'indemnité. Est-ce que vous allez la demander, cette aide?
Oui, je vais la demander, parce qu'on ne crache pas sur 100 €, bien sûr. Mais je pense que ça, c'est rien par rapport à ce que le besoin que j'ai, c'est pas assez.
Ouais, et qu'est-ce que ça représente pour vous, 100 €? Est-ce que c'est suffisant?
Bah, 100 €, c'est 100 € sur 6 mois, on avait dit, c'est ça? 100 € sur une période de 6 mois, donc c'est pas grand-chose, quoi. Ça aide, mais bon. C'est pas grand-chose, quoi.
Et est-ce que vous savez si votre entreprise va demander une prime carburant, 600 €?
Oui, normalement, on va faire la demande avec le patron et il va nous la faire.
Et est-ce que pour rouler, là, vous allez mettre en place des choses face à ce prix du carburant et l'essence qui monte?
Bah, après, on essaye de diminuer les parcours. On essaye des fois de prendre... Des fois, je m'arrête à Saint-Cloud et je prends le RER. Donc, on essaye d'économiser un maximum.
Merci beaucoup, en tout cas. Vous pourrez demander cette aide sur la plateforme du gouvernement le 27 mai sur impots.gouv.fr.
Voilà, parole de français avec Isor de la Gorce et Aristide Sahana. Sofiane, il y a quand même de grands oubliés.
Oui, il y a des trous dans la raquette, comme on dit. C'est toujours le problème avec ce type d'aide parce que, par exemple, les indemnités kilométriques des aides à domicile vont être relevées. Ça va correspondre à 20 centimes d'euros par litre. Mais dans le même temps, les infirmiers et les infirmières, eux, ne verront pas cette indemnité kilométrique être relevée. Pas d'aide à la pompe directe pour les infirmières libérales. Ce qui peut paraître un peu étonnant, ce deux poids, deux mesures. Les chauffeurs de taxi aussi, eux, ils ont droit à l'aide à l'achat pour un véhicule électrique qui démarrera en octobre, mais d'ici là, pas d'aide à la pompe directe. Et puis les dépanneurs, on en a parlé hier, vous aviez vu ces images de manifestation, elles n'ont même pas été citées hier pendant cette conférence de presse. Et puis enfin, on parlait de ce plafond en grand rouleur, vous savez, ces 3 millions de personnes modestes, eh bien le niveau de revenu nécessaire pour la toucher n'a pas été relevé. Ce qui veut dire qu'on est toujours, pour une personne seule, autour de 17 700 euros par an et qu'effectivement, vous avez des personnes modestes qui gagnent moins de 2000 euros par mois net qui ne seront toujours pas aidées par le gouvernement.
Et puis, il y a cette fameuse prime carburant. Tentante, hein, sur le papier, 600 €. Mais qui va réellement la toucher? Comment ça se passe, hein?
Beaucoup de Français ont sans doute découvert hier qu'elle existait, à commencer par nous, cette prime carburant. Bonjour Audrey Guitez. Vous êtes présidente de l'Association nationale des DRH Aquitaine. Le Premier ministre vous demande donc, à vous, de faire l'effort. Vous allez la verser davantage, cette prime?
Alors, certains employeurs seront libres de la verser, donc soit par accord d'entreprise, soit lors d'une décision unilatérale donc de l'employeur, après consultation du CSE. Donc, ça va pas être versé non plus aussi simplement que cela l'indique, mais c'est surtout que c'est au bon vouloir des entreprises. Une entreprise qui est sous contrainte budgétaire, avec des difficultés financières, verser une prime, même si celle-ci est exonérée de cotisations sociales, ça restera dans tous les cas selon le budget et le choix de l'employeur. Ce n'est pas un automatisme. Ce qui est important, c'est qu'on a quand même 75% des actifs français qui utilisent régulièrement leur véhicule pour se rendre sur leur lieu de travail et que surtout que c'est un critère prioritaire dans le choix de la mobilité professionnelle ou dans le choix de changement d'employeur. Donc c'est un sujet effectivement très important, mais qui rejoint plus globalement le sujet d'un plan de mobilité au sein de l'entreprise.
Oui, il faut que vous nous expliquiez vraiment, parce que cette prime, on la découvre avec vous. Ça n'a rien d'automatique, vous le disiez. Et ce n'est pas le salarié, en fait, qui demande, c'est le patron au nom de toute l'entreprise qui peut envisager de la verser.
Tout à fait. C'est l'employeur qui décide s'il va verser ou non une prime à ses salariés, donc qui a doublé, le montant a doublé de 300 à 600 €, avec un allègement des critères et notamment le fait qu'il n'y ait pas d'accessibilité impérative au transport en commun, mais c'est l'employeur qui décidera s'il verse à ses salariés cette prime. C'est pas le salarié qui devra en faire la demande dans l'autre sens.
Donc, vous l'avez déjà vu?
Pardon.
Bah, à titre personnel, pardon, je me demandais, vous l'avez déjà vu cette prime? Vous avez déjà eu l'occasion de la verser?
On est actuellement en discussion pour évaluer effectivement l'intérêt de la verser, notamment sur certaines zones d'activité, oui.
On disait que beaucoup avaient...
Ce qui peut être effectivement et peut être intéressant, mais je le rappelle, c'est lié au contexte économique de chaque entreprise.
Il ne faut pas la confondre avec l'indemnité carburant. Et beaucoup de Français, justement, on le disait, l'ont sans doute découvert hier, cette prime carburant. Comment vous expliquez que ce dispositif soit aussi méconnu ?
Dispositif méconnu parce que souvent, comme tout dispositif de prime et d'indemnisation, on pense que c'est des contraintes pour le versement. Et puis, comme on emploie les mêmes termes entre indemnité, prime et carburant, forcément, il y a, un flou. Donc, il faut vraiment bien distinguer les deux dispositifs, à la fois l'indemnité, comme le reportage que vous venez de montrer précédemment, avec des critères, notamment de revenus, et cette prime qui est liée au monde du travail, au monde de l'entreprise, qui est à la main de l'employeur et qui a un intérêt, qui est effectivement l'exonération de charges sociales pour l'employeur qui veut sensibiliser et accompagner ses collaborateurs pendant cette crise-là.
La vraie nouveauté, au-delà du plafond, hein, on va le redire, c'est que les conditions sont allégées. En fait, c'est pour tout le monde si le patron dit oui.
Alors, c'est pour tout le monde, sauf les salariés qui seraient en télétravail 100%. Parce qu'effectivement, pas d'utilisation du
véhicule. Ça va de soi, eux n'ont pas besoin
véhicule,
de leur voiture pour aller travailler. Ouais.
Et également un collaborateur qui n'utiliserait que les transports en commun.
Est-ce que pour vous, c'est une erreur qu'il n'y ait pas de plafond de revenus ? Parce que finalement, tous les salariés y ont le droit. Et un cadre qui gagnerait très bien sa vie dans une grande entreprise pourrait y prétendre, alors que quelqu'un qui gagnerait moins bien sa vie dans une petite entreprise n'y aurait pas le droit.
Sur une crise comme dans laquelle nous sommes et dans laquelle nous nous engageons un peu plus durablement, la notion de critères de revenus pourrait s'avérer intéressante, sauf que à quel degré on le fixe. Et dans le monde de l'entreprise, on se rend bien compte que les deltas de rémunération entre les uns et les autres sont des fois conséquents par rapport à ce sujet-là. Je rappelle, le montant est de 600 euros. Si on garde les mêmes critères que l'indemnité justement transport, serait exclu bon nombre de salariés. Et donc l'objectif quand même du gouvernement est d'inciter et de maintenir l'activité et l'accessibilité dans l'entreprise en ouvrant cette possibilité. Donc à mon sens, pas de nécessité de critères de revenus dans l'entreprise.
Audrey Guidez, dans beaucoup d'entreprises, ce qu'on appelle les NAO, les négociations annuelles obligatoires, se sont clôturées en début d'année, avant la guerre en Iran et toutes ces hausses de prix, qu'il s'agisse du carburant, puisqu'on parle de carburant et d'autres. Est-ce qu'il ne serait pas temps de rouvrir peut-être des discussions, de nombreux salariés le demandent, et pourquoi pas d'inclure cette prime carburant à l'intérieur ?
C'est effectivement une des possibilités. Hein. La NAO est une fois par an, mais rien ne nous on peut toujours la rouvrir une autre fois dans l'année lorsqu'il y a nécessité. Donc mettre autour de la table les partenaires sociaux et la direction autour de ce sujet permettrait effectivement peut-être de valoriser ce critère-là. Alors soit en plus, soit en remplacement d'autres critères qui avaient été décidés il y a quelques mois avant cette crise.
Vous évoquiez l'ampleur justement de cette crise. Vous, les DRH, est-ce que vous le constatez ? Est-ce que déjà aujourd'hui, vous avez de plus en plus de signaux de salariés qui ont besoin d'avance sur salaire, qui ont besoin d'un soutien particulier ?
Oui, on le constate effectivement. Alors, soit sur les plus bas salaires, mais on le voit sur d'autres salariés. C'est un sujet qui est abordé et on le constate aussi beaucoup dans le recrutement, où effectivement, selon la zone géographique et l'éloignement du domicile, on peut avoir des personnes qui renoncent à prendre un poste ou préfèrent attendre du fait que le coût du carburant vient impacter le salaire qui est proposé et qui n'est pas effectivement surévalué en fonction de cela.
S'il fallait en tout cas un signe ce midi, un chiffre peut-être pour illustrer les problèmes de pouvoir d'achat des Français ces dernières semaines, il suffit de regarder le livret A, Sofiane, dont on dit que c'est le placement préféré des Français.
Oui, il est en baisse, ce qu'on appelle la collecte est en baisse, c'est-à-dire qu'il y a 1,3 milliard d'euros retirés. C'est la différence entre ce qui a été déposé et ce qui a été retiré, ce qui montre que les Français sont en train de puiser dans leur livret A, ils sont et dans leur épargne réglementaire de manière générale. pour effectivement assurer...
Pour finir pourquoi ? Pour boucler
pour
les fins de mois,
le mois, tout simplement.
Pour remplir le réservoir pour...
Exactement, et on le voit, ça s'aggrave depuis le début de la guerre en Iran, parce que chaque mois qui s'écoule, eh bien cette décollecte, elle est de plus en plus importante. Il suffit de regarder. Alors certes, le taux du livret A n'est plus que de 1,5%, ça n'incite pas évidemment à mettre de l'argent dessus, mais l'assurance vie qui était très très attractive, bah elle aussi, la collecte est en train de se tasser, ce qui montre bien qu'on est en train de puiser pour boucler les fins de mois. Évidemment, avec une inflation à 2,2% en France, eh bien ça s'explique. Et puis quand vous avez des prix du carburant, notamment le gazole, qui a augmenté de quasiment 35% depuis le début de la guerre, eh bien c'est pour payer les factures d'énergie, les loyers aussi qui augmentent. Et les courses, on en parle peu. Dans l'alimentaire, la hausse n'est pas aussi sensible, mais malgré tout, cette inflation, elle est en train d'irriguer toute l'économie française.
Et c'est pour ça que toute aide est bienvenue. Audrey Guidez, on vous retrouve. Il y a cette prime carburant qui interpelle les téléspectateurs, pas mal de questions. Est-ce qu'elle peut être fractionnée ? Est-ce qu'on pourrait ne verser que 10 euros ? Et puis, est-ce qu'on pourrait donner 10 euros maintenant et faire une nouvelle prime à la rentrée, par exemple ?
Alors, dans ce qui nous a été annoncé, c'était un plafond global. On n'a pas la possibilité pour l'instant, selon les indications qu'on a, de la séquencer. Elle doit être versée en une seule fois et plafonnée. Ça pourrait être un critère pour certaines entreprises de la verser en deux fois. Un des sujets pourrait être prévoir son applicabilité dans l'accord d'entreprise de cette façon. Mais on attend effectivement des éléments complémentaires sur ce sujet.
Est-ce que finalement, vous restez sur votre faim après les annonces du Premier ministre, même si on a tous conscience que les caisses sont vides ?
Alors, on a tous conscience que les caisses sont vides. Après, je le rappelle, verser une prime à ses collaborateurs, ça dépendra de la bonne santé économique de l'entreprise. 600 euros, donc on le plafonnait. Effectivement, selon la taille de l'entreprise et, la bonne santé économique, ça aura un impact plus ou moins positif. Donc, ce qu'on craint, c'est que ça soit effectivement toujours les entreprises qui sont, le plus bénéficiaires, qui puissent s'engager dans ce genre de dispositif. Et celles qui seraient plus en difficulté et où il y aurait besoin d'accompagner les collaborateurs de ces entreprises-là pourraient ne pas en bénéficier du fait que l'entreprise s'est en coût à sa charge.
En appelant les entreprises, Sofiane, à verser cette prime carburant, on a un peu l'impression que l'État leur dit aussi « nous, on n'a plus rien ». À vous de faire un effort. Ça va quand même coûter petit peu à l'État.
C'est vrai qu'effectivement, l'État refile un peu la patate chaude aux entreprises, c'est le moins qu'on puisse
dire. Ça va lui coûter un tout petit peu sur les 600 euros.
Oui, c'est pas grand-chose. C'est budgété entre 150 millions et 200 millions d'euros. Pourquoi ? Parce qu'il y a des exonérations de charges pour les entreprises. Et puis surtout, c'est net d'impôts pour la personne qui touche la prime. Donc, il y a un petit manque à gagner de recettes fiscales. Malgré tout, ça coûte
évidemment.
C'est-à-dire
que cette prime carburant, net d'impôts, ça c'est très important. Cette
net
prime
d'impôts,
carburant,
effectivement, elle n'est pas fiscalisée.
Pas besoin de la déclarer, elle est directement
dans un sens comme dans l'autre, pour l'employeur comme pour l'employé. Donc effectivement, les deux sont gagnants. Malgré tout, l'État aussi, c'est le premier des gagnants. Grâce à cette prime, ça coûte beaucoup moins que de donner un nouveau chèque carburant à tout le monde.
Ah non, mais c'est sûr, elle donne envie à tout le monde, cette prime de 600 euros. On va suivre quand même le dossier et on verra qui la touche réellement et quel sera le montant moyen. Merci beaucoup encore, Audrey, d'avoir été en direct avec nous pour toutes ces explications.
Dans le reste de l'actualité, il y a cette phrase « Je suis prête à lui parler ». Les yeux dans les yeux, Flavie Flamand se dit déterminée à faire face à Patrick Bruel, contre lequel elle a porté plainte, vous le savez, pour viol il y a une semaine. Animatrice a pris la parole ce matin, c'était sur RTL. Elle est revenue sur les détails de son agression. Écoutez.
Je suis rentrée dans cet appartement, il m'a proposé un thé, je me suis dit mais le thé c'est une boisson de vieux. Ouais. Et j'ai pas osé dire non et donc j'ai bu ce thé. Et après j'ai sombré dans un trou noir, ce que j'appelle le blackout. Et je me suis réveillée, c'est fou d'ailleurs, je me suis réveillée, mon esprit s'est réveillé, mon corps ne répondait pas. Ouais. Et quand j'ai ouvert les yeux, j'étais allongée sur le dos, quand j'ai ouvert les yeux, je l'ai vu, il était en train de me remettre mon pantalon comme, vous savez, comme une poupée.
Et Flavie Flamand qui étrille la défense du chanteur. La stratégie choisie par ses avocats, elle parle même de diffamation. Alexandra Gonzalez, chef adjointe du service police-justice, nous a rejoint parce que Patrick Bruel, en face, lui, continue à démentir. Tout est faux.
Oui, sur son compte Instagram, qui est sa seule prise de parole publique à ce jour, il a écrit que tous les deux, lui et Flavie Flamand, avaient eu, je cite, « une brève histoire, une relation ni violente, ni contrainte, ni sournoise. Et c'est la ligne de défense qu'il a tenue à chaque fois lorsqu'il a dû faire face à des accusations. Regardez par exemple ce qu'il disait en 2021 face à des enquêteurs qu'il auditionne à ce moment-là dans le cadre d'une autre affaire, mais là aussi des accusations de viol. Et il répond « Ce n'est pas moi, je n'ai pas besoin de ça, ce n'est pas dans ma nature, je ne suis pas quelqu'un qui a le goût pour les citadelles imprenables, pour quelqu'un qui se refuse, je m'inscris dans le désir de l'autre, je n'ai jamais forcé qui que ce soit, je n'y trouve aucun plaisir. »
Alexandra, comme souvent dans ce type d'affaires qui remonte, celle-ci remonte au début des années 90, c'est parole contre parole, là on imagine qu'il y a plus de preuves. La suite judiciaire, ça va être quoi ?
Alors, c'est une enquête qui va examiner les faits qui sont décrits par Flavie Flamand, mais pas que, elle va aussi se pencher sur les plaintes de la dizaine d'autres femmes, des investigations qui vont passer par des auditions de témoins, par l'exploitation de messages écrits qui pourraient encore exister, par un jour même un interrogatoire de Patrick Bruel, des confrontations aussi, comme il y en a déjà eu lieu par le passé, des investigations qui vont durer encore plusieurs années, probablement, et à l'issue, la justice décidera s'il y a matière à un procès ou non.
Donc
pour
on
Patrick
peut imaginer
Bruel.
Un face-à-face, Flavie Flamand, Patrick Bruel,
et
dans les semaines
sans,
ou les mois.
Sans aucun doute.
Merci beaucoup Alexandra. On en vient à la politique, la course à la présidentielle, et on va retrouver en direct d'Aveyron, Hugo Capelli, parce que nous avons Gabriel Attal qui s'est invité dans un forum populaire. On se dit que dans ce village, eh bien, il vient certainement pour y faire des déclarations.
Oui, l'ancien Premier ministre qui est déjà en quelque sorte lancé dans cette course à la présidentielle. Il a sorti un livre, il y a eu une tribune de soutien ces derniers jours signée par 500 élus qui ont demandé à Gabriel Attal de se déclarer officiellement candidat à la présidence de la République. Et puis des déplacements un peu partout en France, comme aujourd'hui ici dans l'Aveyron, dans ce village Mur de Barèze, 700 habitants. C'est un village qui est dirigé par un maire Renaissance, le parti de Gabriel Attal. Il participe en ce moment à un débat citoyen, il répond à des questions d'habitants et il devrait, selon toute vraisemblance, se déclarer officiellement à la fin de ce débat citoyen. Alors pourquoi ce département rural ? Pourquoi l'Aveyron ? C'est vrai que Gabriel Attal, il est originaire des alentours de Paris, il est élu député aux alentours de Paris, mais son entourage explique qu'il n'était pas question de se déclarer depuis un studio de télévision ou via une vidéo sur les réseaux sociaux, mais directement devant les Français. Ce sera donc a priori officiel dans les toutes prochaines minutes.
Et on suivra ça évidemment sur BFM TV avec vous. Merci Hugo Capelli. Dans un instant, la météo tout de suite, même vous allez voir, c'est déjà l'été.
Bienvenue si vous nous rejoignez, il est bientôt 13h, l'heure du 13h live, 84e jour de guerre, un accord ou la reprise des frappes peut-être dès ce week-end. Ils discutent toujours, iraniens et américains, mais ça traîne. Et selon les Pakistanais qui manœuvrent en sous-main, Donald Trump s'impatiente. Le 13h live en direct de Washington, Chloé Giraud avec Olivier Saint-Paul. Expliquez-nous ce qui bloque concrètement.
Eh bien, le premier point bloquant, c'est la question du stock d'uranium enrichi de l'Iran que les Américains voudraient récupérer. Mais pour le moment, Téhéran ne se montre pas du tout prêt à ce que ce stock quitte son territoire. Et puis, le deuxième point bloquant, bien sûr, c'est la question du détroit d'Hormuz. L'Iran tente toujours de trouver des moyens de garder un contrôle à minima financier sur ce passage maritime, chose qui est inacceptable pour les Américains. Les discussions traînent donc, même si des deux côtés, on signale quand même des avancées, et le calendrier s'accélère du côté de Donald Trump, y compris sur le plan personnel d'ailleurs, puisque le président américain était censé ce week-end assister au mariage de son fils. On l'écoute.
He'd like me to go. Mon fils aimerait que j'y aille, ça sera une petite fête privée, je vais essayer d'y être. Je lui ai dit, tu sais, c'est pas un très bon timing pour moi. Je gère quelque chose qui s'appelle Iran et d'autres choses aussi.
Et les échéances, elles vont continuer à se multiplier hein, ces prochaines semaines pour Donald Trump. Son anniversaire, c'est 80 ans le mois prochain. La fête nationale américaine ou encore la Coupe du monde de football. Autant d'échéances qui vont pousser, bien entendu, le président américain à ce qu'un accord soit conclu au plus vite.
Le 13h live à présent à Téhéran, Siavosh Ghazi, correspondant de RFI et France 24. Téhéran qui attend toujours l'homme fort du Pakistan qui mène les négociations.
discussions se poursuivent ici à Téhéran, puisque le ministre pakistanais de l'Intérieur est toujours à Téhéran depuis 3 jours maintenant. La position de Téhéran reste ferme, puisque Téhéran refuse d'envoyer à l'étranger son stock d'uranium enrichi, refuse notamment également de renoncer au contrôle du détroit d'Ormuz, puisqu'on sait depuis hier, depuis 24 heures, 31 nouveaux navires ont pu passer le détroit avec l'autorisation des gardiens de la Révolution dans le cadre des règles qui ont été fixées par l'Iran en payant des taxes donc que l'Iran reçoit désormais. Donc de plus en plus de pays, notamment des pays européens, demandent à l'Iran de pouvoir donc faire passer leurs navires à travers le détroit d'Ormuz, selon un conseiller du guide suprême iranien. Donc l'Iran se prend en position de force et on peut s'attendre dans les heures qui viennent, ou peut-être d'ici demain, l'annonce d'un accord de cessez-le-feu ou d'un accord...
Direct à la déclaration de Gabriel Attal pour l'avenir.
Citoyen. Ces échanges, ils vont se poursuivre, évidemment, dans la continuité de ce débat.
Je crois qu'il y a un aligo.
D'un aligo.
Il y a un aligo saucisse qui est prévu, je crois.
Un aligo saucisse préparé par la coopérative Jeune Montagne et par nos artisans bouchers. Très heureux que tu passes 2 jours ici aussi en Aveyron. Merci d'avoir fait le choix de l'Aveyron. Et avant de conclure ce débat, dans la confidentialité de Mur de Barrez, me vient tout de même une question. On est entre nous ici. Tu peux me le dire, tu peux nous le dire, cher Gabriel. Es-tu candidat à l'élection présidentielle de 2027?
Alors, merci d'abord à toi, cher Pierre, pour l'invitation. Merci à vous de participer à ce moment, qui est un moment qui illustre quelque chose de fondamental, c'est qu'on est une grande démocratie. Et qu'en France, on peut ne pas être d'accord. D'ailleurs, souvent, on n'est pas d'accord entre nous. Parfois sur des petits sujets, parfois sur des très grands sujets. Mais enfin, on peut toujours débattre, on peut toujours échanger, on peut toujours confronter nos points de vue. Et à la fin, j'en suis convaincu, on peut toujours avancer. Donc merci à vous de participer à cet exercice. Et ici, on est à Mur de Barrez, sur la place du village, devant ce monument aux morts. Ce monument aux morts qui nous rappelle quelque chose de fondamental, c'est qu'on est une nation. On est une nation parce que nous avons une histoire commune. On est une nation parce que nous avons rencontré des épreuves. Et on est une nation surtout parce qu'on a réussi à traverser ces épreuves et à survivre à ces épreuves ensemble. Alors évidemment, dans un moment comme celui-là, dans un lieu comme celui-là, on ressent tous, chacun d'entre nous, une très grande humilité. Et on ressent tous, chacun d'entre nous aussi, une très grande force. La force d'une histoire qui est millénaire. La force de grands Français qui nous ont précédés. La force d'un pays qui a toujours su écrire l'histoire. Je vais vous parler avec mon cœur, surtout aujourd'hui. Moi, j'aime la France. J'aime passionnément la France. J'aime son histoire, j'aime sa culture, j'aime son agriculture, j'aime ses paysages, j'aime son génie. Et aujourd'hui, ici, dans cette commune, comme partout en France, comme je me déplace, je me dis qu'on a décidément le plus beau pays du monde. Et j'aime la France parce que j'aime la République. Cette République qui nous a donné un modèle social, qui nous a donné l'école, qui a toujours fait la force de la France. Cette République qui nous permet chacune et chacun d'être regardés à égalité, quelles que soient nos origines, quelles que soient nos croyances, quelle que soit notre couleur de peau, quelle que soit la personne que l'on aime. Et j'aime la France surtout parce que j'aime les Français. J'aime profondément les Français. On est un grand peuple. On est un très grand peuple. N'ayons jamais honte de notre histoire. Ne doutons jamais de notre avenir. Il y a toujours eu des Français qui ont dessiné le monde, qui ont dépeint le monde, qui ont dit le monde, qui ont posé des vers sur le monde. Et il y a encore aujourd'hui des Français qui inventent le monde et qui inventent l'avenir et nos quotidiens. Alors, en ayant occupé les plus haute fonction de l'État, en ayant voyagé dans le monde, en ayant eu beaucoup de déplacements en France et de rencontres avec les Français, je me suis forgé une conviction très forte, c'est qu'on a encore nos plus belles pages à écrire. Ne laissez jamais certains vous expliquer que le meilleur était derrière nous. Le meilleur, il est devant nous. J'en suis convaincu. Un pays qui est uni, rassemblé, apaisé, un pays comme la France, à ses plus belles pages à écrire. On n'est pas un pays d'avenir, On est le pays de l'avenir. Ça, c'est ma conviction. Et j'ai ensuite une ambition. L'ambition de nous faire renouer avec une très grande promesse, qui est la promesse de l'élévation. L'élévation individuelle, pour que chacun en France se dise que ses enfants, ses petits-enfants auront une vie meilleure. Et une promesse d'élévation collective pour que chaque Français en France se dise que notre pays va redevenir la première puissance d'Europe et éclairer le monde sur tous les sujets. Et puis je me suis forgé aussi une détermination à agir. Alors il faudra du travail, il faudra faire des choix, il faudra décider, il faudra la force d'agir. Mais avec la force d'agir, tout est possible. Et je crois que tout est là. Apaiser, élever, s'élever. Grandir, conquérir, renouer avec un optimisme, parce que moi je n'en peux plus de cette politique française où c'est 50 nuances de gestion du déclin et on explique matin, midi et soir aux Français que tout a vocation à être pire et qu'on peut éventuellement se protéger un peu individuellement pour que ça soit moins pire pour soi. Non, au contraire, on peut avoir des vies meilleures à condition de nous en donner les moyens. Alors oui, j'ai cette conviction et oui, c'est pour toutes ces raisons. Et c'est parce que j'aime profondément la France et que j'aime profondément les Français que oui, cher Pierre, j'ai décidé d'être candidat à la présidence de la République.
Donc pour accompagner cette déclaration de candidature de Gabriel Attal que vous venez de vivre en direct sur BFM TV, Marie Chantrey, chef du service politique, nous a rejoint dans une mise en scène un petit peu préparée.
On peut dire ça très clairement, Dominique, orchestré en effet. Oui.
Il a choisi l'Aveyron, Gabriel Attal, pour se déclarer, c'est tout sauf un hasard.
Tout sauf un hasard, parce que le maire de Mur-en-Barrez qui lui pose la question finale, est un élu Renaissance. Et puis, il y a cette volonté aujourd'hui de ce nouveau candidat officiel à la présidentielle, même si c'était quand même un secret polichinelle. Il y a eu ce livre, il y a la connaissance de cette date de meeting samedi prochain. Donc, la déclaration en tant que telle est un momentum dans la carrière d'un homme ou d'une femme politique. Mais on savait déjà à quoi s'en tenir. Ça n'a rien d'un hasard, parce que vous le savez, Gabriel Attal, qui a été l'un des plus jeunes premiers ministres, il faut aussi s'en souvenir, a souvent été accusé de procès en déconnexion, très parisien, peut-être trop parisien, lui qui a fait toutes ses études dans la capitale, élu des Hauts-de-Seine aussi. Et donc là, il y a cette volonté, et on l'a entendu, déclaration de candidature, déclaration d'amour aussi à la France, eh bien, de se renouer avec ces territoires, et c'est l'objet de cette démarche / grosse mise en scène, très préparée avec les élus et ses personnalités qui étaient invitées à lui poser des questions pendant plus d'une heure.
Justement, on va retourner à Mur-de-Barrez, village de 700 habitants, avec Hugo Capelli. C'était plus qu'une annonce, Hugo, la force d'agir, a dit Gabriel Attal. C'était un discours de candidature.
Complètement un discours, et on sent que ça y est, la campagne est officiellement partie pour Gabriel Attal. Voilà ce que me disait son entourage il y a quelques instants. À partir de maintenant, ça sera pied au plancher et la campagne permanente. Le site va être lancé au mois de juin. Ce sont 500 000 tracts qui vont être distribués, 200 000 affiches qui vont être collées et puis des déplacements. Et donc le premier déplacement de Gabriel Attal comme candidat, c'est ici en Aveyron. Il va partager dans quelques instants un banquet. C'est aligot saucisse au menu et puis demain, il va participer à une transhumance. Alors forcément,
forcément, il y aura des images qui seront commentées. Est-ce que Gabriel Attal va faire une campagne à la Chirac en 1995? Souvenez-vous, Jacques Chirac, dont les sondages étaient loin derrière Balladur, concurrencé donc au centre et à droite. Eh bien, en 2026-2027, eh bien, Gabriel Attal, lui, il est concurrencé par Édouard Philippe. Et donc, il veut accélérer. Quand le rythme d'Édouard Philippe dans cette campagne est plutôt d'y aller tranquillement, eh bien, Gabriel Attal y va à fond. Il y aura un meeting la semaine prochaine. Il y aura certainement des figures de la Macronie comme Yael Braun-Pivet et Elisabeth Borne qui ne seront pas là. Mais c'est pas grave. Gabriel Attal veut avancer et cette campagne, donc, elle démarre à partir de maintenant avec un premier bain de foule qui se passe à quelques mètres de moi.
Voilà, Hugo Capelli qui évoquait Marie Chantrey, Édouard Philippe, autre candidat déclaré au centre, ça va se bousculer, il ne sera pas tout seul, Gabriel Attal.
Oui, absolument, et vous savez qu'on a beaucoup parlé de ce que l'on pourrait qualifier d'une forme d'accord secret, parce que sur la ligne de finale, la ligne de départ, pardonnez-moi, pour l'élection de 2027, Édouard Philippe, Gabriel Attal, il y a sans doute un homme de trop sur la photo, et possiblement qu'au début de l'année prochaine, les deux s'entendront au vu de ce que sera la photographie, des sondages, des enquêtes d'opinion, qui est le mieux placé pour arriver au second tour de l'élection présidentielle. Tous le savent, s'il y a trop de candidats au centre, c'est évidemment la garantie d'avoir le RN et la France insoumise au second tour.
Aujourd'hui, avantage plutôt Édouard Philippe.
Absolument, selon une dernière enquête d'opinion qui a 15 jours, Édouard Philippe était autour de 19%, Gabriel Attal de 14-15, mais on espère dans son entourage que cette déclaration offre une dynamique. Après, c'est vrai que les deux se regardent, s'observent. Les déclarations ne sont pas forcément, j'ai envie de dire, méchantes. Mais je note cette petite phrase hier d'Édouard Philippe à l'égard de Gabriel Attal, qui le dit, qui le qualifie de concurrent et qui dit « Moi, j'ai mon style, je suis sérieux, je ne vais pas monter sur la table pour faire le malin. Comprenez ce que vous voulez comprendre, mais très clairement, ce type de démonstration et déclaration de candidature, Édouard Philippe, ça le fait finalement un peu sourire, voire ironiser. »
Gabriel Attal, ça fait un moment qu'il se prépare. Il a publié un livre, déjà, avec un programme, les grandes lignes.
Oui, les grandes lignes, on le sait, en tant qu'ancien Premier ministre et surtout ministre de l'Éducation nationale, de l'importance aujourd'hui de l'école, de la protection de nos enfants et de nos adolescents. Vous connaissez aussi sa mesure phare de l'interdiction des réseaux sociaux au moins de 15 ans. Et ça, c'est vrai.
Qui n'est pas complètement réaliste, hein, parce que c'est au niveau de l'Europe que ça se déciderait.
Absolument.
Voilà.
Et c'est vrai que
on peut s'arrêter sur cette image de candidat qui brasse la Ligo.
Là, on est vraiment dans la
Ligo, carte
postale.
Disons ce que c'est la Ligo pour ceux qui.
Du fromage et de la pomme de terre.
Et de la tomme fraîche.
Et puis ça fait des fils et on se remet.
De l'Aveyron.
On a le droit de dire que c'est délicieux. Riche et délicieux.
Voilà. Non, mais là, c'est vraiment en termes de communication politique, on est dans l'image, la carte postale que le candidat souhaite envoyer. Certains pourraient parler de grosses ficelles. Certains aussi font le comparatif assez aisé avec un certain Jacques Chirac, qui, en 2002, s'était déclaré à nouveau candidat à sa réélection depuis Avignon. Et la mise en scène rappelle un peu cela. En 2002, c'était la maire d'Avignon qui lui avait posé directement la question. Et Jacques Chirac s'était empressé de répondre, ce n'était pas prévu.
Ça ne l'était pas.
Et c'est vrai que je pense que la référence du côté des équipes de Gabriel Attal et de Gabriel Attal lui-même est tout à fait assumée. Là maintenant, il va s'agir de ménager aussi ses forces, parce que force est de constater aussi que les Français n'ont pas franchement la tête à l'élection présidentielle. Qu'une élection et qu'une campagne, précisément, c'est un marathon. Il va y avoir ces meetings, plusieurs d'ici l'été. Il va aussi y avoir une date capitale, 7 juillet prochain. Marine Le Pen pourra-t-elle ou pas être candidate? Et ça va aussi changer forcément la tonalité,
et
le jeu.
Sans doute aussi.
Absolument. Et puis il va y avoir cette pause estivale. Et l'appui aussi sur l'accélérateur à partir du mois de septembre prochain. Gabriel Attal qui doit aussi capitaliser sur le parti Renaissance, 90 élus, 90 députés, un parti qui a donc des moyens financiers aujourd'hui, mais pas forcément 90 députés derrière lui.
On va réécouter tout de suite le son de Gabriel Attal. C'était il y a quelques minutes, déclaration de candidature sur BFM TV.
C'est parce que j'aime profondément la France et que j'aime profondément les Français que, oui, cher Pierre, j'ai décidé d'être candidat à la présidence de la République.
Hugo Capelli, on vous retrouve en direct. Quel est son programme, Gabriel Attal ?
Ah, et voyez ces images qui sont en direct avec la caméra de BFM TV. Gabriel Attal qui va s'installer sur la plage du village pour un grand banquet qui est organisé ici, donc dans ce village de Mur de Barrès, qui est dirigé par un maire Renaissance. C'était aussi l'image que voulait montrer Gabriel Attal, c'est que son parti Renaissance est implanté dans les territoires, ici en Aveyron, donc avec le maire de Mur de Barrès. À l'issue de ce banquet, on va partir à 2 heures d'ici, du côté du viaduc de Millau. L'enjeu de ce déplacement cet après-midi, c'est de montrer que l'Aveyron, bah oui, ce sont des petits villages, et puis ce sont aussi des grandes réalisations de ces dernières années. Gabriel Attal qui est accompagné par tous ses proches, hein, Franck Riester, le numéro 2 du parti, un certain nombre de députés comme Prisca Thévenot. Ce déplacement qui va durer jusqu'à demain ici en Aveyron, puisque Gabriel Attal compte participer demain à une transhumance. Il va retrouver des agriculteurs qu'il avait rencontrés au Salon de l'Agriculture à Paris, qu'il avait invités à cette transhumance. Il répond donc présent. Et puis ça se terminera demain en fin de matinée avec une déambulation sur le marché de Rodez, à la rencontre des Français, pour entendre les préoccupations aussi du moment, avec évidemment cette crise énergétique qui impacte tout le monde. Et cela interroge jusqu'ici donc dans l'Aveyron.
Hugo Capelli sur des images de Bastien Dufour. Voilà le nouveau candidat à la présidentielle, 8 mois avant les scrutins. Ça va se bousculer, on y reviendra. Vous restez avec nous dans un instant, le dossier du 13h et l'impressionnant réarmement éclair de l'Iran. Les conséquences aussi que ça aura sur l'évolution du conflit. À tout de suite. Le dossier du 13h, l'impressionnant réarmement éclair de l'Iran, alors qu'officiellement les négociations se poursuivent. On va en parler avec Guillaume Lagan, maître de conférence à Sciences Po, spécialiste des questions de défense. Le général Pélistrandi est toujours avec nous, Sébastien Regnault, spécialiste de l'Iran, parce que ces 6 semaines de cessez-le-feu, visiblement, les Iraniens les ont mises à profit pour refaire leur stock. Et beaucoup plus vite que prévu.
Oui, c'est CNN qui cite les services de renseignement américains, Guillaume Lagan, batterie, site de missiles. On a l'impression, en écoutant CNN, que les finalement, ça repousse partout, comme des champignons en Iran.
Alors, batterie, site de missiles, vous avez mis le doigt sur les difficultés. Vous savez que lorsqu'on évalue les destructions que l'armée israélienne et l'armée américaine ont infligées aux Iraniens, il y a toujours cette question de est-ce qu'ils ont frappé vraiment les stocks, ou est-ce qu'ils ont, comme ils l'ont d'ailleurs eux-mêmes dit, détruit beaucoup de lanceurs, mais laisser ses stocks intacts. Sachant qu'en plus, une partie de ces stocks sont souterrains, donc il est difficile d'en connaître exactement. Déjà à l'abri, et puis difficile d'en connaître exactement le volume. Donc il est tout à fait possible que dans les semaines qui ont permis ce réarmement, eh bien, l'Iran ait reconstitué des stocks de lanceurs. Et après, il y a aussi une difficulté qui reste entière, c'est que sur l'évaluation des destructions, on est quand même dépendant des estimations israélo-américaines au départ. Sachant que M. Trump a parfois tendance à un peu exagérer ses succès et à minorer ses échecs, il y a peut-être eu un optimisme exagéré de la part des Américains. Il y a peut-être aussi une réelle inquiétude, ou peut-être une prise de conscience par les responsables américains aujourd'hui, que le travail n'a pas entièrement été fait. Et c'est peut-être aussi ces informations qui circulent, une manière de justifier la reprise des combats qu'on voit se profiler.
Ce qui est sûr, Sébastien, et on le dit depuis le début, c'est qu'on a sous-estimé l'Iran, que c'est une économie de guerre, et que donc il y a les moyens, clairement, qui sont tous orientés vers le militaire.
Oui, c'est une économie qui se prépare depuis très longtemps. 90 millions d'habitants, beaucoup d'ingénieurs, beaucoup d'usines, beaucoup d'industries pétrochimiques. On sous-estime ce côté-là. C'est-à-dire que maintenant, tout est en plastique. Les drones, etc., c'est des armes low cost. Et moi, quand j'étais en Iran, c'est fou le nombre de plastique, de fabrication de plastique et l'utilisation qui peut être fait pour du côté militaire. Et on voit bien, alors il y a les estimations des services de renseignement américains, c'est aussi un peu à double tranchant, c'est-à-dire que c'est pour dire aussi aux politiques, si on relance les hostilités, il faut s'attendre aussi à des représailles et des ripostes importantes. Et donc c'est mettre un poids supplémentaire sur la décision qui sera prise, parce que dans le processus de prise de décision, on sent que cette décision de partir en guerre contre l'Iran a été prise un petit peu à l'emporte-pièce. Et s'il y a un deuxième front, un deuxième lancement des hostilités, là, va pas falloir se louper.
Ah bah, Sarraji avait prévenu, le ministre des Affaires étrangères iranien, un retour à la guerre réserverait bien des surprises. C'est ça,
oui,
les surprises.
Ils prévoient, on est vraiment dans une menace permanente. Alors c'est aussi le coup de bluff, le jeu de poker menteur au niveau politique.
Oui, mais justement, ce mot surprise, il était intéressant. Est-ce qu'il y aurait un armement caché?
Alors, c'est clair que les Iraniens, vous avez vu d'ailleurs depuis le début de la guerre, ils en ont sous le coude. Ils sont beaucoup moins communicateurs que les Américains sur ce qu'ils ont en stock. Et donc, ils peuvent présenter des nouvelles armes, des nouveaux... Ils en ont souvent sous le coude. Là, on parle aussi des câbles sous-marins. Bon, bah ça, on n'en parlait pas il y a 2-3 semaines. On a parlé des mines, voilà. Ils ont alors une géographie qui les sert, car ce pays est stratégiquement très bien placé pour avoir une capacité de nuisance sur le monde. Et donc après, il suffit d'utiliser les bonnes armes pour que cette menace s'applique, se mette à exécution.
Et puis, il y a les drones. Vous pourrez commenter juste après, Guillaume, parce que les drones, c'est très intéressant. On va aller en parler avec le général. La production a déjà repris. Alors nous, ça nous impressionne. Mais en fait, vous nous expliquez, général, que d'une part, ils sont pas chers à produire et qu'en fait, c'est pas si compliqué, pas besoin de méga-usines.
Oui, tout à fait.
Alors notamment là, le Shahed.
Même si on a des tunnels importants, en gros, c'est un quelque chose qui tient, voilà, entre nous deux là à peu près. C'est dans des matériaux composites, les plastiques hein, dont on vient de parler. Regardez, ça pèse à peine 200 kilos. Et donc, il n'y a pas besoin d'avoir des usines majeures, des ponts roulants. Vous voyez, c'est des choses qui sont assez simples à produire. Avec le moteur, bah c'est un moteur, ça ressemble un peu à un moteur de tondeuse à gazon. Ça fait le même bruit. Avec des composants qui sont simples à produire. Et puis, vous avez aussi le fait que les Iraniens disposent d'abord des compétences, hein, on l'a évoqué, mais par exemple des imprimantes 3D.
Ah oui.
Et les imprimantes
ça s'imprime
3D, peut imprimer des pièces avec des imprimantes
certains
3D.
Certains composants, voilà, certains éléments.
Ouais. Ensuite, il y a une déconcentration, c'est-à-dire que les Iraniens ont eu le temps depuis qu'ils se préparent à éparpiller la production. Après, bien sûr, il faut transporter les engins, mais c'est facile, c'est pas compliqué, et ça coûte pas cher. Un drone comme ça, c'est entre 5 et 20 000 dollars. Donc vous comprenez que...
Par rapport à un missile, c'est sûr.
Oui. Exactement. Et donc, ils sont capables, ils en ont repris la production depuis la fin des combats.
Et quoi qu'on dise Donald Trump, ils sont pas si isolés que ça, l'Iran. Il leur reste des alliés. On a eu des informations, alors évidemment, rien n'est officiel, mais de livraison depuis la Chine.
Bien sûr. Et puis, la Chine...
Par la route, c'est ça qui est intéressant, parce que c'est plus discret, évidemment.
Bien sûr, par la route. Et puis, ce sont des composants qui sont faciles. Ce ne sont pas des technologies qui sont purement militaires. Donc, vous pouvez très bien, avec les réseaux dont dispose l'Iran et avec les frontières qui leur permettent d'aller vers l'Asie...
Organiser, en fait, cet acheminement.
Organiser, puis après, il y a une ingénierie, en quelque sorte, qui est très forte et qui permet de fabriquer en grande quantité donc ces drones.
Alors, on se pose évidemment une question ce midi avec tout cet arsenal, avec toute cette préparation. Et si l'Iran décidait de frapper le premier? Donald Trump dit qu'il se réserve le droit de reprendre la guerre si les réponses iraniennes ne lui conviennent pas. Mais si Téhéran décidait de dégainer en premier? En tout cas, c'est un scénario que peu avaient envisagé, mais qui circule en Israël. Marie-Rou, vous êtes à Tel Aviv.
Oui, exactement. C'est une information qui a été révélée ce matin par le Jérusalem Post qui cite plusieurs hauts responsables militaires israéliens qui ont évoqué la possibilité d'une attaque surprise iranienne contre les pays du Golfe, mais également contre Israël. Et cette possibilité d'une attaque iranienne, elle impliquerait notamment des tirs de missiles, mais également l'usage de drones. Elle a été évoquée, cette attaque surprise iranienne, lors d'une évaluation sécuritaire avec plusieurs hauts responsables du renseignement, des responsables militaires et également, le ministre de la Défense, Israël Katz. Enfin, cette possible attaque iranienne surprise, elle intervient au pire moment, pour ainsi dire, puisqu'on est dans un contexte déjà particulièrement tendu. Alors que les négociations entre Washington et Téhéran s'enlisent, se poursuivent en vue d'un accord de cessez-le-feu, et dans le même temps, c'est sur un fond de désaccord profond entre Donald Trump et Benjamin Netanyahou. Donald Trump qui plaide plutôt pour un compromis diplomatique, alors que le premier ministre israélien, lui, souhaite une reprise des frappes dès que possible. Pour l'heure, en tout cas, il s'agit d'un scénario évoqué donc par les services de renseignement israéliens qui montre, qui traduit l'inquiétude dans le pays et l'état d'alerte maximale, alors que Tsahal se tient toujours prête à intervenir si reprise des frappes il y a.
Marie-Rou, sur des images d'Olivier Saint-Paul, vous y croyez, Guillaume, cette histoire d'attaque surprise? Là encore, hein, attention à la guerre de com.
Attention à la guerre de com, c'est vrai que là, l'Iran ne cesse de proférer des menaces tous azimuts, à la fois contre les États voisins dans la région, Israël, les Européens, les câbles, le détroit d'Ormuz. Bon, en fait, elle s'en prend un peu à la terre entière. Maintenant, c'est vrai que d'un point de vue militaire, ça pourrait faire sens pour l'Iran si elle veut rééquilibrer un peu la situation dans laquelle elle est, qui est quand même, au-delà du discours, assez précaire. Ça pourrait faire sens que de nouveaux missiles, par exemple, soient envoyés sur les pays voisins du Golfe. Je rappelle que la semaine dernière encore, les Émirats arabes unis ont été frappés par des missiles, certes venus, alors des drones venus d'Irak, mais de milices liées à l'Iran. Donc c'est une hypothèse qui est tout à fait envisageable. De la même manière que si je reviens un instant sur ces armes mystérieuses qu'évoque l'Iran, moi je pense en particulier aux armes de destruction massive. Vous avez quand même, pendant la guerre Iran-Irak, eu un usage intensif d'armes chimiques, donc on pourrait imaginer que l'Iran ait conservé des capacités, qu'elle soit prête à les utiliser pour frapper les esprits.
Ce sont des armes chimiques, dans la guerre Iran-Irak, c'est plutôt eux qui les ont respirées que les Iraniens qui les ont envoyées.
C'est vrai, mais ils en ont également utilisé, si vous vous rappelez. Je ne dis pas qu'ils ont commencé à le faire, mais je dis que ça a été utilisé dans les deux camps. Et d'autre part, évidemment, il y a l'ombre portée de l'arme nucléaire. On imagine, en voyant toute cette crise et ces menaces proférées par l'Iran, ce que serait ce pays s'il détenait aujourd'hui l'arme nucléaire, il serait littéralement inexpugnable.
Alors, qui décidera de frapper le premier? Y aura-t-il des frappes d'ailleurs, puisqu'il y a pour l'instant des menaces, mais officiellement, on négocie toujours, même si ça coince et si ça patine. Chloé Giraud, vous êtes à Washington. Qu'est-ce qui coince exactement entre Washington et Téhéran?
Toujours les deux mêmes principaux points, à savoir premièrement la question du stock d'uranium enrichi de l'Iran que Donald Trump veut absolument récupérer, voire même le détruire. C'est ce qu'il avait expliqué. Mais du côté de Téhéran, on ne semble absolument pas prêt à ce que ce stock d'uranium quitte le territoire. Et puis il y a bien entendu la question aussi du sort du détroit d'Ormuz, avec Téhéran qui tente toujours de réfléchir à des moyens de garder une sorte de contrôle à minima financier sur le détroit d'Ormuz, chose inacceptable du côté de Washington pour le moment. Des discussions donc qui traînent, même si des deux côtés on souligne quand même des avancées, et un calendrier qui s'accélère avec des échéances pour Donald Trump, des échéances aussi personnelles. Ça peut paraître anecdotique, mais le président américain était censé ce week-end assister au mariage de son fils aîné sur une petite île des Bahamas. Il a été interrogé à ce sujet hier et il expliquait qu'il n'allait certainement pas pouvoir y aller parce qu'il avait autre chose à gérer, à savoir l'Iran. Le président américain qui va aussi fêter ses 80 ans le mois prochain, il y aura la fête nationale américaine, la coupe du monde de football, bref, autant d'échéances qui vont très certainement pousser le président américain à pousser justement pour avoir un accord le plus rapidement possible.
Négocier ou bien frapper? Dans la tête de Donald Trump, avec un invité exceptionnel, John Bolton, son ancien conseiller à la sécurité nationale. Bonjour, merci d'être en direct avec nous des États-Unis. Il est très tôt pour vous. Merci d'avoir accepté l'invitation. 84e jour de guerre pour vous. Comment Trump peut-il en sortir par le haut?
Eh bien, il y a eu beaucoup de dommages au régime iranien, mais il faut encore faire davantage. Et le problème de Trump, c'est qu'il ne sait toujours pas quels sont ses objectifs principaux. Et cela l'empêche de faire quoi que ce soit de cohérent. Je pense que, du point de vue intérieur, il aurait des résultats plus positifs s'il était capable de faire un cessez-le-feu, mais en même temps, il est inquiet de reproduire l'accord sur le nucléaire d'Obama en 2015. Il ne veut pas faire cela, donc il y a beaucoup de doutes sur ce qui va se passer par la suite.
On a parfois du mal, nous, en France, à suivre la stratégie de Donald Trump, à comprendre les menaces, les frappes, les ultimatums repoussés. Vous qui étiez dans son cerveau, si j'ose l'expression, est-ce que vous comprenez aujourd'hui ce qu'il cherche à faire ?
Le problème, c'est que Trump n'a pas de philosophie précise et il n'a pas de grande stratégie en matière de sécurité nationale. Il n'a pas de politique que l'on puisse comprendre. C'est très difficile d'accepter cela. Pour moi, c'était difficile d'ailleurs à accepter, mais c'est la réalité. Chaque décision est une nouvelle décision. Il est très transactionnel. Il prend une décision à la fois. Certains disent qu'il joue aux échecs en 3D. Mais en fait, non, il prend une décision à la fois, et c'est la seule façon dont il est capable de réfléchir.
Pour vous, est-ce qu'il doit frapper de nouveau pour finir le travail, comme il a pu le dire lui-même ?
Je pense qu'il a deux alternatives. Soit de dire que le cessez-le-feu a été violé et revenir aux attaques qui avaient lieu par le passé. Je pense que depuis 20 ans, la politique devrait être un changement de régime en Iran. Je ne crois pas que ce soit ce que Trump croit, mais il n'y a plus grand-chose du régime à détruire. Et il ne veut pas... Il faut qu'il utilise la force militaire pour ouvrir le détroit d'Hormuz, pour que le pays du Golfe puisse fonctionner. Il faut continuer à mettre la pression sur l'Iran, mais il faut absolument libérer le détroit pour que le pétrole puisse voyager, pour qu'on empêche que l'économie mondiale soit trop pressurisée.
Sur Hormuz, tous les militaires disent que c'est pas par la force qu'on pourra libérer ce détroit.
Si on n'utilise pas la force, alors l'Iran va prendre le contrôle total de ce passage qui est vital, et c'est d'ailleurs en violation totale du droit international pour ceux qui s'intéressent au droit international, puisque c'est un passage international et ce devrait être un passage libre pour les navires commerciaux. Et ça, c'est quelque chose que l'Iran ne veut pas permettre. Et si on n'utilise pas la force, si on ne rétablit pas cette liberté, alors d'autres pays en dehors de l'Iran pourraient aussi décider de se comporter de la même manière sur d'autres passages libres. Et là, on se retrouve dans un monde très dangereux.
Vous avez longtemps plaidé, vous, pour une intervention en Iran. Seul moyen, selon vous, de maintenir la paix et la sécurité au Moyen-Orient. Ça fait 3 mois que la guerre a démarré. Bientôt, le régime est encore là. Certains diront même qu'il s'est radicalisé. Que faut-il faire pour renverser ce régime ? Frapper, continuer encore plus fort ?
Le régime est en place depuis 47 ans et comme Hamas dans la bande de Gaza, ils ont créé une forteresse souterraine et le régime en Iran a dépensé les ressources du pays sur sa défense militaire pour se préserver, pour être prêt à tout, peu importe ce qui se passe envers la population. Et là, on ne devrait pas être surpris par la situation. Je pense qu'il y a des preuves montrant que le régime est en train d'être détruit. On a des rapports venant d'Iran montrant que le régime n'avait plus d'argent, que les milices ne pouvaient plus être rémunérées par le régime. Et donc, ça pourrait être problématique pour le régime. Donc, il y a beaucoup de choses qui se passent. Trump a fait beaucoup d'erreurs et tout ne s'est pas passé comme il avait prévu. Mais pour l'instant, il n'y a pas vraiment de solution pour la paix et la sécurité dans le Moyen-Orient. À part une destruction totale du régime à Téhéran.
Justement, vous, aujourd'hui, qu'est-ce que vous lui conseillez de faire ?
Au minimum, il faut ouvrir le détroit d'Hormuz. Je pense que ça, c'est faisable. Je pense qu'on a les capacités de pouvoir le faire. Ce sont les missiles que la Chine a vendus à l'Iran qui sont problématiques, plus que les mines et les drones également qui peuvent attaquer les navires. On a vu des rapports montrant que les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite avaient utilisé la force contre l'Iran. Donc les pays du Golfe s'impliquent davantage et ils se rendent compte qu'ils ne peuvent pas vivre de manière sereine si on laisse l'Iran au contrôle du détroit.
Question de Patrick Sauce.
Bonjour John Bolton, vous étiez donc conseiller à la sécurité nationale. C'est un poste que les Français ne connaissent pas forcément beaucoup, mais c'est l'un des postes les plus stratégiques dans une administration présidentielle. Ce poste, il n'est pas pourvu, c'est Marco Rubio, le secrétaire d'État, qui a ce portefeuille, si je peux dire, en plus. En quoi l'absence d'une véritable personnalité qui serait à 100% là-dessus peut être préjudiciable ? Donald Trump, on l'a vu, il utilise les mêmes amis, proches, y compris des gens qui n'ont pas un cursus universitaire ou professionnel proche de ses affaires. Comment il arrive à quand même comprendre ce qui peut se passer dans certaines régions du monde, notamment au Proche-Orient, après avoir notamment fait, avec son secrétaire à la guerre, énormément de purges chez les militaires qui, eux, connaissaient le Moyen et le Proche-Orient.
Le système du Conseil de sécurité nationale a été créé en 1947 par le Congrès pour pouvoir fournir au président des capacités permettant de gérer les affaires internationales très complexes, des affaires internationales auxquelles font face les États-Unis. Et chaque président décide d'agir d'une manière ou d'une autre, mais Trump décide qu'il n'a pas besoin de savoir quoi que ce soit. Pour lui, les affaires internationales
ont à voir avec les relations interpersonnelles des dirigeants. Donc, il pense que s'il est ami avec Vladimir Poutine ou s'il est ami avec Xi Jinping, alors les relations États-Unis-Russie ou États-Unis-Chine se passent bien. Mais en fait, c'est faux. Les relations personnelles ont un rôle à jouer, mais ce n'est pas, ça ne fait pas tout. Et Donald Trump ne le comprend pas.
Le général Pellistrandi, qui a une question pour vous.
Oui, Monsieur Bolton, comment voyez-vous l'évolution des relations transatlantiques entre les États-Unis et l'OTAN au regard de la guerre actuellement en Iran ?
Je pense que Donald Trump a fait une erreur en ne consultant pas ses alliés de l'OTAN, non seulement sur les frappes elles-mêmes, mais sur l'action militaire de manière générale. Il n'a pas également consulté ses alliés dans des pays du Golfe. Et il n'a pas consulté le Japon, l'Australie, la Corée du Sud, qui pourtant se sont approvisionnés en pétrole et en gaz du Moyen-Orient. Donc il a fait beaucoup d'erreurs de cette manière-là, mais ce serait une erreur de dire que ce n'est pas la guerre de l'Europe. Bien sûr que c'est une guerre de l'Europe. Le prix du pétrole est fixé de manière internationale. Lorsqu'il y a un gouvernement comme l'Iran qui essaie de prendre le contrôle du détroit d'Hormuz, cela a un impact sur tout le monde. L'Europe est bien plus proche de l'Iran que les États-Unis ne le sont. L'Iran peut toucher l'Europe avec des missiles balistiques intercontinentaux. Et cela fait longtemps que l'Iran menace la région, donc je pense qu'il faut penser de manière stratégique. Il ne faut pas laisser les émotions que l'on peut avoir par rapport à Donald Trump influencer les décisions politiques que l'on prend. Et il ne faut pas que Donald Trump soit un obstacle à la réflexion stratégique.
John Bolton, tous les consultants militaires que nous avons en plateau, tous ceux qui se succèdent sur BFM TV, nous expliquent que la solution ne passera pas par la force, mais par la diplomatie avec l'Iran. Est-ce que vous pensez, Donald Trump lui-même d'ailleurs dit toujours espérer un accord, est-ce que vous pensez qu'il est possible de conclure un accord avec le régime actuel ?
Bien sûr, il peut y avoir un accord, simplement ils ne vont pas le respecter. Négocier avec ce régime, c'est inutile.
Question de Guillaume Lagane.
Oui, Monsieur Bolton, vous avez été ambassadeur des États-Unis à l'ONU. À l'époque, vous étiez très critique de l'ONU et probablement pour de bonnes raisons. Est-ce qu'aujourd'hui, vous considérez que cette organisation est encore importante, utile ?
Je pense que le principe des organisations politiques, le Conseil de sécurité, le Conseil des droits de l'homme, tout cela, cela ne fonctionne plus. Il y a des agences qui font un bon travail, mais les organismes principaux des Nations Unies ne fonctionnent plus. Je ne vois pas comment on pourrait les réparer.
Est-ce que pour vous, l'Europe devrait s'impliquer davantage dans ce conflit ? C'est un reproche qui est beaucoup fait par l'entourage de Trump et lui-même.
Je pense que l'OTAN devrait être plus impliquée dans la guerre. Je ne pense pas que l'Union européenne a un rôle en matière de défense. Je ne crois pas qu'elle ait la compétence de le faire. Mais je pense qu'en matière de puissance internationale, il est important d'utiliser des mécanismes de paix et sécurité, les mêmes que depuis longtemps, c'est-à-dire l'OTAN qui devrait continuer à protéger contre les menaces portées à l'Europe.
Donc vous ne croyez pas tellement à cette mission neutre portée par la France et le Royaume-Uni avec le Charles de Gaulle en tête de pont pour aller notamment sécuriser Hormuz ?
Quelles seraient les règles d'engagement dans cette mission neutre ? Est-ce que ce serait comme les forces de maintien de la paix de l'ONU, où ils ne peuvent simplement réagir que s'il y a une attaque, ou est-ce qu'ils auront l'autorisation d'utiliser la force si nécessaire ? Je ne comprends toujours pas cette mission, mais il y a des différences entre le maintien de la paix et faire en sorte que la paix soit garantie. Et en tout cas, il faudra voir.
Guillaume Lagan.
Dernière question sur l'ONU. Vous avez rappelé qu'elle fonctionnait mal. Qu'est-ce que vous pensez du Board of Peace, du Conseil de la paix que M. Trump a proposé pour notamment gérer Gaza ?
Je pense que c'est une illusion. Je ne pense pas que ça puisse être constructif de quelque manière que ce soit. C'est simplement Donald Trump qui a voulu créer son héritage et ça n'ira pas plus loin que la fin de son mandat.
Sébastien Regnault.
En somme, si je comprends bien votre position, vous pensez que Donald Trump n'a pas frappé assez fort l'Iran pour obtenir les objectifs qui étaient visés, et si vous étiez à sa place, vous relanceriez les hostilités, mais pour quel objectif ?
Je ne sais pas quelle est la logique de Trump. Pour moi, ce serait un changement de régime. Et Trump n'a pas fait de consultation avec l'opposition en Iran, qui aurait un rôle important à jouer pour détruire le régime, pour garantir son effondrement. J'espère que maintenant c'est le cas et qu'il est en communication, mais je ne vois pas de preuves que ce soit le cas, et c'est un vrai problème. Mais si c'est fait correctement, je pense que le changement de régime, c'est la seule manière de garantir la paix et la sécurité au Moyen-Orient.
Dans quel délai envisagez-vous une reprise possible des frappes en Iran ? Et faut-il cette fois-ci envoyer des troupes au sol ? On sait que Donald Trump, jusqu'ici, se refuse cette option.
Je ne crois pas qu'il va changer de positionnement sur ce sujet. Et l'opposition en Iran, chez les Perses, les Kurdes, les Azeris, les Béloutchis et d'autres sont plus impliqués, mais ils ont besoin de personnes sur le terrain. Il y a beaucoup de personnes qui ont quitté l'armée en disant qu'ils voient que cela s'effondre et qu'il faut s'en aller maintenant. Mais donc, ils ont un rôle à jouer sur le terrain. C'est pour ça que la communication avec eux est si importante. Parce que eux, ils sont sur le terrain. Et il y a eu d'autres exemples dans d'autres pays du Moyen-Orient où l'armée a refusé de tirer sur sa population et ça a été un vrai changement, un point de bascule.
John Bolton, on sait que ce qui est très important aujourd'hui dans les discussions, c'est le nucléaire, ces 400 kilos d'uranium enrichi qui sont quelque part dans les montagnes iraniennes. Donald Trump dit qu'il va aller le chercher. Comment on s'y prend pour faire ça ?
Je ne crois pas qu'il ait un plan. C'est très dangereux, bien sûr. Les opérations nucléaires sont assez larges, mais je pense qu'il n'y a pas de solution. Et il ne faut pas que l'Iran soit en mesure d'avoir une arme nucléaire. On sait que c'est leur objectif et on sait qu'ils ont fait des progrès sur le sujet. Et l'Iran a également pourrait avoir une coopération avec la Corée du Nord, et ça, ce serait une vraie menace avec des tests qui pourraient avoir lieu en Corée du Nord. Donc, c'est important d'avoir cela à l'esprit. Tout ce que fait l'Iran en rapport avec le nucléaire, il faut s'en méfier.
On découvre aussi John Bolton dans cette guerre, un président qui use et même qui abuse des réseaux sociaux avec des messages postés le jour, la nuit. On imagine qu'en tant que conseiller, vous lui aurez probablement déconseillé de faire ça. Est-ce que cette communication à outrance a pu nuire parfois au bon déroulement de la guerre ou a pu influencer certaines décisions ?
Cela montre le chaos qu'il y a dans l'esprit de Trump et rien que ça, cela donne un avantage au régime iranien. Et comme je l'ai dit, il ne comprend pas les affaires internationales. Pour lui, c'est une question de relations personnelles. Il ne comprend pas pourquoi quelqu'un ne voudrait pas conclure un accord avec lui. Il veut toujours conclure des accords avec tout le monde. Donc, pour lui, plus de 5 ans en tant que président, et il ne comprend toujours pas l'environnement international dans lequel il est censé évoluer.
Est-ce que Donald Trump pourrait frapper alors que va se tenir le grand pèlerinage à la Mecque, le Hajj ? Est-ce qu'on peut prendre le risque de toucher des gens à ce moment-là ?
Je pense que c'est à prendre en compte. Mais il y a eu beaucoup de... Je ne pense pas que cela aura d'impact, très franchement.
Une toute dernière question, John Bolton. Aujourd'hui, est-ce que pour vous, Donald Trump est apte à diriger les États-Unis d'Amérique ?
Non, et cela fait longtemps que je pense qu'il n'est pas apte à exercer cette fonction-là. Je pense qu'il commence à faire face à de vrais problèmes politiques aux États-Unis. Cela a pris du temps, mais je pense que les problèmes s'empilent et des temps tumultueux nous attendent, ça c'est sûr. Et on verra ce que donnent les élections en novembre. Il semblerait que les électeurs aient une opportunité d'exprimer leur insatisfaction avec Donald Trump. Donc, c'est peut-être à ce moment-là qu'on aura un vrai indicateur sur la situation politique.
D'un point de vue psychologique aussi, John Bolton, on a pu lire dans certains médias qu'au moment de l'opération de sauvetage du soldat, certains conseillers avaient même demandé à Donald Trump de quitter la pièce. Est-ce que cela veut dire que le président est quelque part devenu peut-être un handicap aussi ?
Je pense qu'il aime être impliqué dans absolument tous les détails, qu'il les comprenne ou non.
Ce n'est pas vraiment le rôle du commandant en chef de surveiller une opération de sauvetage particulière. Je pense que les vrais dirigeants comprennent cela. Aucun doute sur sa santé mentale ?
Je pense qu'il ne comprend pas ce travail, son poste. Il ne comprend pas ce que c'est que d'être un président. On a vu beaucoup de preuves indiquant cela pendant son premier mandat. On en voit davantage dans le deuxième mandat. Mais il nous reste encore 2/3 de son deuxième mandat.
Merci beaucoup vraiment John Bolton de nous avoir accordé ce temps, d'avoir répondu à toutes nos questions. Vous qui avez été un des plus proches hein, de Donald Trump, témoin exceptionnel de ce premier mandat et de ce second que l'on vit avec vous et qu'on comprend pas forcément non plus tous. Merci beaucoup John Bolton.
Well, thank you for having me.
Merci.
Patrick Sauss, John Bolton. Très proche conseiller de Donald Trump, qui avait l'habitude de dire, ancien conseiller de Donald Trump, qui avait l'habitude de dire que Donald Trump considérait les affaires étrangères comme une transaction immobilière.
Oui,
aujourd'hui, il nous dit effectivement la même chose.
Oui,
il ne sait pas trop où il va.
D'abord, il n'y a pas plus anti-Trumpiste qu'un Trumpiste déçu.
Voilà, limogé.
Limogé en 2019 et depuis pourchassé par l'administration Trump de façon judiciaire, médiatique. C'est un homme qui a vraiment été mis de côté. Pourquoi ? C'est un néoconservateur, hein, repensez à tous les années George W. Bush, il est là-dedans, mais John Bolton, s'il a été pourchassé aussi, et si sa parole est importante aussi, c'est qu'il fait partie, justement, de ces gens qui ont fait des études pour avoir ce type de poste comme conseiller.
Il faisait partie des adultes dans la pièce.
Oui. Et il en a fait son premier livre, ce qui lui a valu d'être vraiment excommunié de l'administration.
Vous racontez les coulisses de ce qui se passe.
Mais c'est pour ça, c'était aussi un peu le sens de ma question parmi les très bonnes questions autour, c'est que désormais, il n'y a plus que des gens loyaux, mais plus de gens compétents qui connaissent ça. On le sait, j'en discute, je le savais plus ou moins déjà depuis avant la guerre, mais lorsqu'on a les généraux, anciens généraux qui sont ici, il y a une connaissance extrêmement fine par les militaires américains de toute cette zone-là. Des militaires américains qui ont été virés, eux aussi, purgés. Et donc, on se retrouve avec des gens qui n'y connaissent rien, au premier rang desquels, vous avez entendu John Bolton, se trouve Donald Trump, qui veut assister à tout, même s'il ne comprend pas ce qui est en train de se passer. Et ça vous donne une idée de ce qu'on vous explique depuis le début, c'est-à-dire que c'est sans doute un bon tacticien, mais un stratège. Absolument pas.
Sébastien.
Oui, John Bolton, moi je le suis depuis presque 20 ans sur le dossier iranien. C'est l'anti-iranien le plus acharné aux États-Unis. C'est-à-dire que de tous les échiquiers politiques, conservateurs, démocrates, républicains, c'est vraiment celui qui était depuis toujours adepte de la manière forte. D'ailleurs, la question que je vais poser pour lui, il n'y peut y avoir qu'un changement de régime. C'est-à-dire que presque le nucléaire, le balistique, Hormuz, tout ça, c'est des prétextes, mais ce qu'il faut obtenir, c'est un changement de régime. Et donc là, s'il était à la place du président américain, il aurait sans doute relancé les hostilités.
Il le dit d'ailleurs très clairement, il faut refrapper.
C'est lorsqu'il était conseiller de Donald Trump, que Soleimani, le chef des gardiens de la révolution en Iran, a été assassiné. Donc John Bolton fait partie des gens qui ont, d'ailleurs, les Iraniens l'ont un petit peu mis aussi sur leur liste noire, c'est-à-dire que pour la décision de d'avoir tué le chef des gardiens de la révolution à Bagdad, cette décision a été prise par John Bolton et
qui a longtemps plaidé effectivement pour une attaque en Iran.
Merci beaucoup, merci à tous après cette interview exceptionnelle. Négocier ou frapper, on en sait un peu plus dans la tête de Trump, mais alors c'est toujours le suspense et des négociations qui patinent. On continue à en parler dans un instant avec Karine de Ménonville et Jérémy Brossard, ce sera juste après la météo.